Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Hola.
Et je suis aussi avec Exerve.
Hello.
Alors messieurs, on souhaite une nouvelle fois une bonne année aux personnes qui nous écoutent, puisque on est encore en janvier, donc hein, c'est la tradition.
On est encore en 2021.
On est encore en 2021. Et puis il y a peut-être beaucoup de gens qui n'ont pas écouté l'épisode précédent consacré à The Last of Us 2, de crainte de se faire spoiler, et ils avaient raison, puisque c'est une émission où on spoil les jeux, donc voilà, bienvenue à vous dans cet épisode. Un peu moins de risque sur Halo quand même, je pense qu'on peut le dire.
Il y a presque prescription à un moment donné.
Au bout d'un moment, je crois que voilà.
Le Master Chief a une armure de couleur verte.
Voilà, il y a une meuf qui s'appelle Cortana, mais c'est une IA. Voilà, aujourd'hui on va parler de Halo. On remercie du coup au passage Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que.
Mais quand même du jeu vidéo aujourd'hui.
Oui, là, oui.
Puisque aujourd'hui, on a eu la chance, l'honneur de recevoir le bouquin sur Halo, le Space Opera selon Bungie, écrit par Loïc Rallet, alias Epion, hein, sur Twitter, vous connaissez JVC, tout ça, hein, la légende. Vous savez, chez Third, il y a trois types de bouquins. Il y a les bouquins normaux, il y a les bouquins costauds, et puis il y a les maxi-bouquins fatos comme ça sur Halo.
C'est un hommage touchant à la première Xbox.
Très fort, effectivement, un gros gros bouquin. Benoît, tu l'as lu.
Oui.
Et tu m'as d'ailleurs dit que c'était très agréable à lire parce que Loïc, il a écrit ça un peu comme une série avec des cliffhangers et tout à la fin des paragraphes.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai adoré comment il présente. Du coup, j'ai principalement lu, comme à chaque fois, on lit surtout la partie contexte pour connaître un petit peu l'historique de Bungie et tout ça. Et à chaque fois, il fait vraiment des espèces de vraiment de gros cliffs entre deux paragraphes du genre. Et là, ils ne le savaient pas, mais ils allaient faire le meilleur jeu de leur vie. Et après, ça enchaîne. Et vraiment, tu lis le truc et finalement, ça s'enchaîne. J'ai lu.
Et quel était le meilleur jeu de leur vie, ça, on se demande.
Ah,
ça parle de quoi, ce livre, déjà? C'est ça. Donc voilà, on vous le recommande évidemment si vous voulez avoir toute l'historique
à
la
fois
de
Bungie. Pour le coup, c'est vraiment ultra complet. Ça permet aussi de voir un petit peu les coulisses de la création de la Xbox, puisque forcément, Bungie, ils ont un rôle assez important là-dedans. Ça permet de découvrir tout l'univers de Halo, si jamais vous avez envie de lire les 837 pages. Non, j'exagère, mais c'est vraiment très très dense. Et surtout, vraiment cette partie contexte, étant donné que j'ai lu que ça, il y a des tonnes d'infos, donc ça c'est cool si vous aimez la série, allez-y.
Sachant qu'aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le premier épisode, même si par la suite, j'imagine qu'on déroulera un petit peu ce qui est advenu de la série dans le paysage vidéoludique.
Ce qui fait que c'est un épisode rétro, n'est-ce pas?
Tout à fait, Maxime. Et oui, parce que nous, on concrétise les paliers, les promesses qu'on fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le lancement du prochain palier. Patreon, et oui, nous l'avons ajouté, la blacklist, ça y est, c'est officiel, on va vous permettre de nous aider à choisir un petit peu les jeux qui seront abordés dans l'émission. Alors, pour vous faire un petit peu le background très simple, il y a deux listes, hein, chez nous. Il y a la liste officielle et puis il y a la blacklist. C'est des jeux qu'on a mis un petit peu de côté, alors même s'ils peuvent être chers à certains d'entre nous, on les a mis un petit peu de côté parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu des vieux jeux, ça sort un peu de notre zone de confort.
Et pas forcément tous les trois, mais au moins une ou deux personnes de l'équipe qui n'a pas forcément envie de parler de ce jeu.
Ou tout de suite envie de se lancer dedans, en tout cas, mais le truc c'est que vous êtes tellement nombreux et nombreuses à nous soutenir qu'on a envie d'y aller, on a envie de se faire plaisir et de vous faire plaisir. Et c'est pour ça qu'on est allé sélectionner 12 jeux dans cette blacklist et on va vous donner la possibilité de voter pour le jeu que vous aimerez, pour les jeux, hein, puisqu'il y aura 4 jeux qui pourront être sélectionnés. Vous pourrez voter sur le salon Discord pour sélectionner les jeux qui seront abordés dans l'émission. Et en fait, dès qu'on atteint le palier, car oui, on perd pas le nord quand même dans Fin du Game, il faut le savoir.
Oui, il y a un Patreon.
le palier Patreon, on clôturera les deux. On fermera, exactement, c'est mieux, les votes, et on s'arrêtera sur les quatre jeux choisis.
Et on s'engage en fait à les faire donc, dans les mois qui suivent, la saison suivante, ça va dépendre évidemment à quel moment on va atteindre ce palier sur Patreon. On va voir évidemment quelle sera votre réaction à tout ça, parce qu'on s'est dit, tiens, c'est rigolo d'ajouter un petit peu d'interactivité.
Oui, c'est vraiment ça le principe.
C'est juste histoire de dire, on met des jeux qu'on aime bien. Alors souvent c'est des anciens jeux, c'est surtout des jeux un peu du cœur à chacun d'entre nous, et on s'est dit faire jouer ça aux autres, ça prend du temps, c'est pas forcément évident, mais si c'est les gens qui nous l'imposent, on n'a pas le choix.
C'est ça le truc, pourquoi 4 jeux? Alors, on va pas vous donner ici les 12 jeux, faudra aller sur Discord pour les connaître, mais en fait on aura une liste de 3 jeux chacun. Il y a 3 jeux, donc moi j'aimerais qu'il y ait un épisode Fin du Game dessus, mais c'est pas forcément le cas de Hugo ou de Benoît, et pareil pour vous, mais il y a aussi la catégorie choix du public, donc des jeux qui ont souvent été demandés par les gens, et voilà, on en a sectionné trois parmi les demandes récurrentes.
Moi, on peut vous les dire, les jeux qu'on a choisis justement du public qui reviennent toujours dans les conversations, hein, c'est vraiment les demandes. Est-ce qu'on peut demander des jeux? C'est possible? Et ben voilà, c'est ceux-là qui reviennent le plus souvent. Donc on a Mass Effect, on a Yakuza 0 et on a Okami. Voilà, c'est les trois jeux qu'on a retenus pour cette liste du public. Et du coup, bah, vous pourrez voter pour celui. Voilà, dès qu'on atteint le palier, on pourra en choisir un et nous l'imposer, en fait. Hein,
ah, c'est ça, donc un de ces trois jeux-là, un des trois jeux d'Hugo, un des trois jeux de Benoît et un de mes trois jeux. Mais là, tout ça sera
expliqué sur Discord. Tout ça sur le Discord. Discord, voilà.
Exactement, notre club de lecture. Vous pouvez rejoindre ce salon via le lien. Il est toujours dans la description de l'épisode. Donc voilà, ce sera expliqué un peu plus en détail là-dessus. Mais voilà, on est content de rajouter un petit peu d'interactivité. C'est cool aussi que vous nous aidiez un petit peu à choisir parce que bah, ces jeux, forcément, c'est des jeux fin du game up, c'est des jeux qui mériteraient leur passage dans l'émission. Mais voilà, vous allez pouvoir nous aider à choisir un petit peu les premiers qui vont passer. Donc je pense que ça peut être sympa. On a tout dit pour cette intro. Je vous remercie évidemment au passage si vous nous soutenez sur Patreon. Bien sûr, ça c'est important. Merci beaucoup.
On peut appeler les cœurs hein, désormais pour arriver.
On ne vous fera pas ça pendant tout l'épisode. Ça reviendra, on le refera plusieurs fois. Chaque mention du Master Chief, on devra faire ça, c'est pas vrai. On va nous sélectionner une petite musique. Est-ce qu'il y aura les chœurs dans la petite musique?
À mon avis, il y aura les chœurs.
Est-ce qu'il y a une musique sans les chœurs dans Halo?
C'est ça, bien sûr. Non, mais le pire, c'est qu'il y a un tas de musiques emblématiques, mais c'est vrai que le thème, tu vois, de Halo, c'est quand même le truc que tout le monde connaît d'oreille. On l'entend, tu sais ce que ça veut dire. Donc je pense que c'est ça que notre DJ personnel, Maxime, il s'appelle, va nous sélectionner.
What's up, this DJ Maxime? Non, c'est moi qui le fais.
Je cherchais une musique avec Halo dedans, mais je trouve pas.
Bah, Halo, Beyoncé. De... Beyoncé. Ouais. I can see your hello. Eh ben, écoutez, après ces gammes, on se retrouve juste après ça pour un nouvel épisode de Fin du Game. Alors, Halo Combat Evolved, c'est sorti le 15 novembre 2001 en North America, mais par contre c'est sorti en mars 2002 chez nous, car oui, c'était l'époque où les jeux ne faisaient pas des sorties mondiales, comme aujourd'hui, maintenant, très peu de jours d'écart, alors qu'avant, parfois, il fallait attendre des mois. C'est sorti évidemment sur Xbox, hein, puisque, bon, ça on va en parler, c'était une exclue Xbox. Ça a été développé par Bungie, ça on en a parlé forcément dans l'intro. Par contre, ce qui est, en tout cas, moi, ce que je ne savais pas, c'est que bah, c'est pas un studio qui a commencé son existence avec Halo, parce qu'ils étaient déjà là depuis un moment, en place depuis 1991.
Mais je sais pas ce que t'as avec l'anglais. Il y a des phases comme ça chez Hugo. Ouais, hein, ça
dépend
de
quel type de rap j'écoute. C'est français, en ce moment c'est américain. Voilà, je suis.
Ah bah c'est pour ça. Voilà, d'accord. Donc effectivement, Bungie, c'est un studio qui date de 1991. Et en fait, si pas grand monde connaît ce qu'il faisait avant Halo, c'est parce qu'en fait, il développait des jeux pour Mac. Voilà. Non mais c'est vrai qu'ils ont commencé en fait à faire des jeux sur Apple, ce qui était assez surprenant comme choix à l'époque, puisque bon bah les ordinateurs Apple n'étaient pas forcément mis en avant, c'était plutôt Windows qui prenait le pas là-dessus. Pourtant bah ils ont effectivement fait le pari de faire quelque chose là-dessus. Ils ont fait une trilogie notamment qui s'appelle Marathon, qui était des FPS qui ont été forcément inspirés par Doom, hein, comme tous les jeux de l'époque. C'est du Doom-like. Il y a quand même tout un tas de petites particularités au niveau visuel, au niveau musique, le fait qu'il y ait du multijoueur, etc. Enfin c'était un jeu qui était quand même assez ambitieux pour l'époque et qui a priori son petit lot de fans encore aujourd'hui. Et surtout ça a permis au studio de vraiment se créer. Alors au début c'est rigolo parce que Bungie pendant quelques années c'était un studio Apple et ils étaient régulièrement mis en avant parce que leur jeu effectivement voilà c'était un peu le fer de lance des ordinateurs. Ouais, Steve Jobs tu vois
si tu jouais sur Macintosh tu faisais partie de ces 28 personnes et ben tu pouvais jouer au jeu Marathon.
Et donc en fait ils ont fait une trilogie, ça a vraiment bien fonctionné. Ils ont fait également des RTS, donc c'est pareil, un jour ils ont vu Warcraft, ils se sont dit, c'est cool ça. Ils ont fait un truc qui s'appelle Myst. Là-dessus, je suis pas sûr du nombre de jeux parce que j'ai oublié, c'est assez compliqué. C'est à partir de là que ça a commencé à devenir un petit peu compliqué leur histoire. En gros, ce qui s'est passé, c'est que vers la fin des années 90, ça se passe pas forcément très très bien. Avec Apple, leur situation financière à Bungie est pas idéale. Ils savent pas forcément dans quelle direction aller. Il y a pas mal de projets qui se font en parallèle, en interne, où ils savent pas trop. Ils ont ouvert un deuxième studio qui s'appelle Bungie West, qui va développer un jeu qui s'appelle Oni, mais ils vont galérer, ils vont y passer des années. Bref, ça va pas trop. Il se trouve que un peu plus loin. Pendant ce temps-là,
dans une autre partie de la Silicon Valley.
Non mais j'ai pas le truc de Épion là-dessus, parce que vraiment quand il te raconte ça, c'est là genre, et pendant ce temps chez Microsoft,
je savais pas que leur destin était déjà.
C'est toujours retourné comme ça, et je trouve que ça marche super bien. Et effectivement, donc il y a un type qui s'appelait Ed Fries, qui était un des architectes de la Xbox chez Microsoft, qui était un fan en fait des jeux de Bungie, qui savait qu'il y avait des petits soucis. Moi je dis Bungie, hein, voilà.
Oui,
j'avais des soucis, ils avaient des soucis là-dessus, et bah il va essayer de s'approcher d'eux pour voir si ça serait pas mal de les ajouter à l'écurie Xbox. Parce qu'il faut savoir, et là bon, on peut peut-être faire une parenthèse sur la création de la Xbox, c'est pas un projet qui a été facile du côté de chez Microsoft. C'est-à-dire que ni Ballmer, donc c'est comment il s'appelle, Steve Ballmer, l'un des deux patrons de Microsoft,
là,
ni Bill Gates n'avaient en fait foi dans ce projet-là. Mm-hmm. En fait, à l'époque, il y avait plusieurs projets qui étaient en compétition. La Xbox et un autre truc qui s'appelait d'ailleurs Web TV, c'est assez rigolo. Ils se sont battus en interne pour vraiment mettre en avant la Xbox en disant le jeu vidéo, c'est un truc important et tout ça. Ça a mis du temps à démarrer. Ils ont finalement réussi à les convaincre. Ils ont annoncé une Xbox, elle avait des specs qui étaient très puissantes, ça avait l'air d'être un super projet. Donc Bungie a accepté de se faire acheter complètement par Microsoft. C'était en 2000. Mmh. On est un an avant la sortie de Halo.
Sachant que Halo avait déjà été présenté à une conférence Apple, ouais. Hein, vraiment l'année
quelques
d'avant.
Quelques années plus tôt, en 99. En 99, ouais.
Et alors, à l'époque, le jeu était très différent, mais du coup, vraiment, Halo s'est fait racheter, on va dire, même si je crois qu'il s'appelait même pas encore Halo à l'époque. Je crois que
le jeu s'appelait déjà Halo.
Oui, voilà.
Ouais, c'est ça.
Mais pas Halo Combat Evolved.
Non, ça c'est un ajout Microsoft.
Combat Evolved, oui, on reviendra peut-être dessus effectivement. Mais du coup voilà, Microsoft qui rachète le studio et l'intègre vraiment comme dans cette nouvelle division Xbox.
Voilà, qui est créée vraiment de toutes pièces par ces gens-là. Du coup, le studio est carrément déménagé à Redmond, hein, qui est le campus de Microsoft. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on se rend compte à travers le bouquin que ils avaient un fonctionnement un peu à part. Microsoft à cette époque, il y avait vraiment ce délire startup nation, tu vois, technologie, Silicon Valley,
c'est fini,
tout ça.
Ça
je sais pas, je pense qu'ils ont quand même gardé une partie de leur culture d'entreprise où l'idée c'était que les gens pouvaient se balader comme ça d'un bâtiment à l'autre, venir voir. S'il y avait un projet qui leur plaisait, les gens pouvaient demander à être mutés d'un projet à l'autre. Et le truc c'est que l'industrie du jeu vidéo ne fonctionne pas de cette manière-là. Et en fait, les gens de Bungie racontent qu'il y avait des gens, tu vois, les week-ends qui venaient avec leurs gamins pendant que les autres crunchaient sur Halo. Et donc ils se sont dit, bon, c'est pas vraiment Disneyland ici. Donc ils se sont en fait isolés du reste des studios et du reste des divisions de Microsoft, et ça a marqué en fait assez tôt dans leur relation entre Microsoft et Bungie une espèce de prise de distance qui fait qu'ils étaient toujours, ils faisaient un peu bande à part quoi, hein, tout simplement Bungie. Mais en tout cas, ils arrivent chez Redmond et ils continuent à développer Halo. Alors ça se passe pas forcément bien du tout, ce qui est assez effroyable je trouve dans ce que raconte le bouquin sur Halo justement, c'est à quel point à chaque fois qu'ils font un jeu, Bungie, t'as l'impression que c'est Crunchland, hein. C'est vraiment, à chaque fois c'est une catastrophe pour arriver jusqu'au bout, il y a des problèmes en cascade, enfin vraiment, ça, il y a plein de fois où c'est genre, et là il y a telle personne qui est partie pendant 3 semaines, plus personne avait de nouvelles, à un moment il y a un des fondateurs du studio qui s'est barré pendant plus de 3 mois sans jamais dire à personne où il était, enfin c'est des histoires assez folles comme ça, d'autres qui ont divorcé, qui se sont barrés à l'autre bout des États-Unis, enfin bon, plein de vies brisées malheureusement pour faire ces jeux.
Oui, parce qu'on parle beaucoup du crunch en ce moment, enfin c'est un thème qui est assez contemporain, mais ça a toujours existé en fait dans le jeu vidéo. Je relisais là un petit peu Blood, Sweat and Pixels, quelques chapitres, donc notamment sur Halo Wars, et il parlait du studio, donc Ensemble Studio qui a fait les Age of Empires, donc qui bossait aussi pour Microsoft, et pareil, je crois il parle de semaines de 100 heures, enfin des trucs, ouais pareil.
Ils se retrouvaient dans des situations
à dire.
Non,
aujourd'hui, il y a eu des prises de parole et voilà, c'est un sujet qui on sait aussi, nous le public, on se l'est approprié et on en parle, mais déjà c'est assez récent. Mais par contre, le crunch, ça ne l'est pas du tout, c'est une vieille culture dans le jeu vidéo et une culture aussi globalement dans la tech,
oui.
Et dans plein de
domaines artistiques.
Oui, voilà, effectivement. Ouais,
donc en gros, Halo, effectivement, le développement s'est pas forcément très bien passé pour pas mal de raisons, qui sont notamment dues à la Xbox qui a évolué en termes de les specs de la console ont vraiment évolué. Ils ont mis du temps finalement à recevoir les kits qui allaient être la Xbox telle qu'elle allait sortir. Donc ils ont dû changer énormément de choses, mais ils avaient un truc pour eux chez Bungie, c'est qu'ils avaient fait une démo qui avait été présentée, donc c'était en 2000 ou en 2001, je sais plus, une démo de Halo qui a été présentée en E3, donc ça devait être 2001, ouais, quelques 2000, mois avant la sortie, et le jeu avait cartonné, vraiment, il avait impressionné, que ce soit au niveau de la presse, des joueurs, tout le monde était vraiment en mode, ok, on attend ce jeu-là, ça va être le jeu de la Xbox, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Quand le jeu est sorti, ouais, tu voulais raconter autre chose ?
Oui, je te coupe juste, et en fait, aussi, ce qui a causé les troubles un petit peu pendant le développement, c'est que le jeu est passé par plein d'étapes. Au début, c'était pas du tout un FPS.
Oui, non, c'était un TPS.
C'est passé même à, c'était un RTS.
Au tout début, c'était un RTS, c'est vrai.
Donc héritier de Myth, hein, le jeu qu'ils faisaient avant. Et après, en fait, grâce justement à la technologie, ils se sont dit qu'ils pouvaient rapprocher cette caméra des personnages parce qu'on pouvait, il y avait une modélisation qui était quand même plus intéressante. Donc on est passé sur un TPS. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a été présenté au début. Et ensuite, il s'est transformé en FPS. Donc vraiment, c'est un jeu qui a subi plein de transformations assez importantes, hein, vraiment à un niveau macro. Et puis même
dans les détails, hein.
Ouais, voilà, c'est ça, entre la démo et la sortie du jeu en novembre, il s'était passé, il y a eu pas un monde qui séparait les deux jeux, mais vraiment le jeu avait une autre tronche que ce qui avait été présenté,
parce qu'il y a eu tout un tas de choses qui ont été créées vraiment au fil de l'eau, c'est à dire que l'univers en lui-même n'a commencé à se cristalliser finalement que après la sortie du jeu via des bouquins. On aura l'occasion d'y revenir dessus. L'apparence même du Master Chief, le nom du Master Chief, hein, tout ce genre de trucs sont des choses qui ont été décidées petit à petit. Au début, il avait une armure beaucoup plus fine, beaucoup plus un peu en mode ninja, etc. Le côté gros guerrier soldat s'est apparu finalement un peu plus tard. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au fur et à mesure. Mais en tout cas, à l'arrivée, le jeu fonctionne. Alors ils ont dû l'amputer de pas mal de contenu, et notamment le mode multijoueur en ligne, puisqu'en fait, à la sortie de la Xbox, donc de la première Xbox, le Xbox Live n'est pas encore lancé. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment le Xbox Live, c'est au cœur de la stratégie de Microsoft. À l'époque, ça a été lancé, je crois, presque un an après. Ça a mis très longtemps à arriver.
Même dans l'image collective, hein, moi, Xbox s'était associé justement à ce truc en ligne. Tu sais, je me disais, c'est la console avec laquelle on peut jouer en ligne. Mais c'était effectivement qu'un an après la sortie, la première année de la Xbox, il n'y avait pas ça. Et c'est assez marrant parce que je trouve que c'est intéressant de revenir sur ces détails parce que c'est des trucs qu'on oublie un petit peu. Parce que voilà, Xbox, c'est le mode en ligne, le Xbox Live, ces trucs-là. Mais la première année, c'était pas encore en place. Mais du coup, les gens jouaient en multi avec du LAN.
Avec le LAN, en fait. Hein, le jeu permettait de faire la coop en écran splitté. On pouvait jouer dans certains modes multijoueurs jusqu'à 16 en faisant des espèces de réseaux de consoles. Et du coup, chose qui m'impressionne, mais parce que c'est vrai qu'on se représente plus ça, les gens se baladaient avec leur console pour aller chez des gens. Alors, ça veut dire qu'à une époque, l'humanité avait le droit de sortir de chez elle pour aller voir d'autres gens.
Souvenez-vous.
Moi, j'ai du mal à m'en rappeler, c'est un peu flou. Mais en tout cas, voilà, les gens se faisaient des espèces de LAN parties pour se faire des parties de Halo à l'époque.
Et avec une Xbox, faut le vouloir. Mais on peut préciser aussi que Halo est ressorti ensuite sur PC, donc presque 2 ans après, 1 an et demi, 2 ans en fonction des régions. Et là, du coup, il y avait du multi en ligne.
Oui, il était déjà intégré, etc. Mmh. Le fait que Halo s'appelle Combat Evolve, c'était effectivement une volonté de Microsoft qui trouvait que le nom Halo avait peut-être pas assez c'était pas assez percutant, ça faisait pas assez bonhomme, tu vois. Donc ça marchait pas trop avec leur cœur de cible.
L'armure de Master Chief, tu vois, c'était pas un ninja, c'était un bonhomme. Et Combat Evolve, parce que voilà, parce que c'est du combat évolué.
Et moi, à l'époque, donc moi, je l'avais fait sur PC et je pensais que Combat Evolve, c'était le nom de la version PC, en fait.
Ouais,
parce que
le nom, ça fait non spin-off.
Tout le monde disait Halo, tu vois, et Combat Evolve, j'avais jamais vu ça ou entendu ça, quoi.
Et comme on le disait, donc effectivement, le mode multi en ligne est arrivé surtout avec Halo 2. C'est lui finalement qui a vraiment entériné le truc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les fondateurs un des deux fondateurs, j'ai oublié son nom, de Bungie, étaient fans de multi depuis toujours. C'est pour ça que Marathon il y en avait, c'est pour ça que dans Myth il y en avait, etc. Et donc ils ont quand même malgré tout mis ce mode multi. Et c'est ça qui finalement a permis le succès en fait de Halo 1, qui dès la sortie a déjà une très bonne réception critique. Le jeu se vend plutôt bien, mais surtout il va se vendre extrêmement bien sur la durée parce que les gens en fait qui ont la Xbox, qui se vend principalement aux États-Unis, je crois que c'est Max, t'avais les chiffres.
Ouais, j'ai oublié, mais il y a peut-être au moins la moitié du Xbox dans le monde, c'est que les États-Unis, quoi.
Ouais, c'est vraiment une console qui a cartonné assez vite en Amérique du Nord et donc les gens, en fait, j'imagine que tu vois, il y a vraiment une espèce d'effet boule de neige qui disait venez, on se fait un Halo, c'est incroyable ce jeu-là. C'est un FPS sur console et ça évidemment on va y revenir, ça a permis de mettre en place tout un tas de jalons de ce genre-là qui sur console étaient encore assez peu représentés.
Oui, oui, et puis même, enfin vraiment, c'était Halo, c'est devenu en fait, dès que c'est sorti, la licence Xbox. Enfin, tout bêtement, il y avait ce vert Xbox et le vert de l'armure de Master Chief. Enfin, limite, on pouvait les apposer.
Et tu sais que ça, ils l'ont pas calculé
non,
avant.
Non, clairement, je pense pas. Non, mais c'est dans la tête de l'enfant que j'étais en 2001, pour moi, c'était oui, voilà, Xbox.
C'est vert, ça marche.
Le mec avec sa petite vie lisière là comme ça. Pour moi, c'était vraiment ça l'image de la Xbox, quoi. Et du coup, on a pu associer.
Mais moi, ça
me
fait marrer parce que tu vois, c'était le manque de lucidité des gens du marketing chez Microsoft qui n'ont pas calculé que ça allait pouvoir marcher. Tu vois aussi bien genre ah oh, putain, il a une armure verte et nous on a un logo vert sur notre console, c'est incroyable. Tu vois, ils ont même pas dit ça, c'est génial. Mais ça montre aussi à quel point vraiment il y avait une espèce d'artisanat du côté de chez Xbox au tout départ. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Je crois d'ailleurs qu'il y a un bouquin chez Ford qui raconte l'histoire de la Xbox que j'avais lu il y a quelques années, ou c'était peut-être avant, je sais plus. Mais voilà, c'est vraiment l'histoire de cette console est assez fascinante. Et quand tu lis le truc de Halo, tu te dis, mais c'est un miracle que ça soit arrivé au bout, quoi. Parce que c'est vraiment des bouts de briques et de broc et des gens qui se sont dit, bah, on va faire MacGyver et puis ça va marcher. Donc,
mais c'est vrai que même j'avais regardé la présentation, l'annonce de la Xbox par Bill Gates, il en a rien à carrer. Tu sais, il fait, ouais, alors les jeux vidéo, c'est quand même pas mal. Donc voilà, on arrive avec la Xbox, mais tu sais, il regarde même pas bien la caméra. Enfin, tu sais, t'as vraiment l'impression que le mec
qui s'en tape,
tu vois, qui avait pas vraiment. Il ne croyait peut-être pas tant à ce projet que ça, quoi. Bon, alors Microsoft, déjà à l'époque, c'était déjà un géant, hein, c'est pas.
Ils sont devenus instantanément des géants, en fait. Hein. Windows, ça les a vraiment propulsés en quelques années. Donc effectivement, ça faisait. Bill Gates, ça faisait déjà 10 ans que c'était un des hommes les plus riches du monde. Hein, voilà, donc, ouais. Bon, il était. Mais encore une fois, il était toujours aussi présent, tu vois, dans le quotidien de son entreprise. Hein. Il décidait de pas mal de choses. Il voulait notamment imposer à la Xbox qu'elle tourne sous Windows et pas un système propriétaire, tu vois, un truc très fermé comme toutes les autres consoles. Il voulait pas non plus que la console ait un port Ethernet. Tu vois, c'est le genre de truc que tu te dis a posteriori, c'est génial, tu vois, ce genre d'erreur comme ça. Parce qu'il voulait pas que la console soit connectée à Internet, il n'en voyait pas l'intérêt.
Visionnaire.
Exactement. Et donc, c'est encore une fois, je crois que c'est toujours Ed Fries qui a insisté là-dessus parce qu'il s'est dit, bah si, au contraire, il faut Internet, c'est important, etc. Et donc voilà. Toujours est-il que Halo, eh ben, en fait, c'est devenu, par la force des choses, vraiment l'image de la Xbox. Et encore aujourd'hui, c'est d'ailleurs, je pense, leur seule licence qui date d'aussi longtemps, qui est toujours en activité.
De toute façon, on ne peut pas dater depuis plus longtemps, puisque ils se sont lancés à ce moment-là. Mais oui, je pense qu'effectivement, c'est encore aujourd'hui, ça reste le visage associé à la Xbox. Et du coup, on va pouvoir commencer à rentrer dans le jeu en tant que tel. On va commencer à parler de son histoire. Et cette fois-ci, c'est encore Benoît qui va s'y coller, hein, comme tu as lu le bouquin. Alors, nous, le jeu, on l'a découvert quasiment en même temps, il y a quelques semaines, quelques mois, en début d'année. Toi, Maxime, tu l'avais fait à l'époque.
Yes, bah, à l'époque sur PC, donc plutôt, je sais pas, vers 2003-2004, dans ces eaux-là. Quoi.
Donc des souvenirs un peu plus flous.
Oui, un peu plus flous, on peut dire ça. J'ai surtout des souvenirs du multi, d'ailleurs. Donc.
Alors moi, étant donné que je parle d'Halo, je suis obligé de citer Kevin et John qui ont bossé avec moi à Micromania à l'époque. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait Halo, mais je connais l'univers de Halo par cœur. Parce que quand on travaille avec des gens qui sont fans de Halo, en fait, ils ont un sujet de prédilection. Tu vois, qu'est-ce qui se passe-t-il quand deux fans de Halo se rencontrent ? Eh bien, ils parlent de Halo. Donc voilà, je connaissais l'univers, je connaissais l'histoire, etc. Ce qui est assez intéressant, et je m'en suis rendu compte finalement sur le tard, c'est que la moitié, même les trois quarts des trucs dont ils me parlaient, sont des choses qui sont issues des livres de Halo et pas forcément des jeux vidéo qui ont vraiment été, on va dire, propulsé en termes de densité et d'univers grâce à tous ces bouquins-là.
C'est le moment de citer la vidéo. J'ai oublié son nom, son famille, c'est Gilbert, c'est ça, mais j'ai oublié.
Ah
le,
oui,
le,
non, alors je sais pas comment il s'appelle, je sais juste qu'il a des cheveux longs.
Le mec de Polygon, avec des lunettes et des cheveux longs et une moustache.
Je fais des vidéos, par exemple, typiquement, une fois, ils ont essayé de reproduire les recettes de Zelda Breath of the Wild en vrai, tu vois, avec des ingrédients. Donc c'est un peu ce genre de délire-là.
La série, c'est Unraveled, je crois, c'est ça.
Oui, je crois que c'est ça. Et il a fait une vidéo où il a lu tous les romans Halo, et je sais plus, mais il y en a une trentaine, je crois, de mémoire.
Oui, ouais, et encore, il les lit pas tous, je crois. Mais c'est vrai que la vidéo est rigolote, bref, elle est assez cool, vous pouvez aller voir ça. Mais du coup, l'histoire de Halo qui s'ouvre sur ce vaisseau.
Pillars of Autumn. Oui, effectivement. De toute façon, c'est ça. Hein. C'est vrai que
l'ouverture SF.
Effectivement, le ton est donné instantanément. Donc, on découvre. Oui, bien sûr. On découvre que. Alors, nous, on voit d'abord ce vaisseau-là. On ne sait pas encore exactement qui est notre personnage. Ça, on va l'apprendre, en fait, petit à petit, finalement, via le regard des autres. On apprend, en fait, que le Pillars of Autumn est en train de fuir les Covenants. C'est des aliens, en fait, qui nous ont attaqués. Et ils vont, a priori, détruire le vaisseau dans lequel on se trouve. Et donc, en fait, nous, on joue le Master Chief, qui est mandaté par le Capitaine Keyes, qui est le chef du vaisseau dans lequel on est, de prendre Cortana. Donc, Cortana, c'est l'IA, en fait, du vaisseau. Elle possède tout un tas d'informations secrètes, notamment les coordonnées de la Terre. Exactement. Et donc, forcément, si les aliens y trouvaient ça, ils iraient attaquer la Terre. Et on le sait, c'est la galère. Bruce Willis est mort dans le futur, donc il ne peut plus défendre la Terre. Non, pardon.
Qu'est-ce qui se passe ? J'en ai marre.
Donc, en gros, notre mission, c'est de partir vraiment en mode solo. On doit protéger Cortana et survivre au crash imminent l'avion du vaisseau. Ce qui est intéressant avec l'histoire du jeu, c'est qu'en fait, elle évolue pas mal. Une fois que le vaisseau se crache sur cette espèce de halo géant...
On a déjà fait le lapsus oui, pendant la préparation,
c'est terrible, hein. Donc en fait, il se retrouve voilà, à côté de cette espèce de structure dans l'espace qui ressemble à un halo. Une fois qu'il se crache dessus, il se rend compte qu'en fait, il y a des paysages, il y a de la mer, enfin, c'est habitable, tu vois, ça a été terraformé, le truc. Le vaisseau n'a pas craché tant que ça, il y a pas mal de survivants.
En fait, il y a la plupart des gens ont survécu, ouais.
dont le fameux capitaine.
Ils se sont débarrassés, en fait, du Master Chief.
Et donc, le Master Chief, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de sauver petit à petit les différents survivants. Il va reprendre contact avec le colonel Keyes dans une fameuse mission, etc., sur l'île et tout. Il va également en profiter au passage pour se rendre compte que ben, cette immense structure dans l'espace dans laquelle ils peuvent respirer, etc., c'est quand même bizarre. Il faudrait peut-être qu'on mène l'enquête là-dessus. Et donc, il commence à chercher, à en apprendre un peu plus.
C'est le capitaine Keyes, en fait, qui lui dit, quand on le récupère, en fait,
c'est une arme.
Alors, les Covenants, apparemment, ils vénèrent ce truc-là, mais c'est une espèce d'arme gigantesque. Et du coup, bah, il faut qu'on se renseigne dessus.
Si c'est une arme, il faut évidemment que l'armée des États-Unis l'utilise.
C'est normal.
Et donc on va mener l'enquête, effectivement. On va tomber au bout d'un moment sur une intelligence artificielle, une autre qui s'appelle donc 343 Guilty Spark. Oui, c'est pour ça que le studio 343 Industries s'appelle 343. Je ne le savais pas, mais maintenant je peux me la péter, tu vois, en société. Et il va nous expliquer que le Halo, c'est effectivement une arme et qu'il a besoin du Master Chief pour le réactiver. Et c'est là où on va découvrir que non seulement il y a des aliens, mais en plus il y a une autre menace alien qui s'appelle les Floods. Et donc les Floods, on voit le fan de Blizzard, ça le démange.
StarCraft qui est là.
Moi, je connaissais 10 œuvres à tout péter quand je jouais à Halo dans StarCraft, donc forcément, je voyais que...
Montre-nous ton tatouage de Kerrigan.
Donc voilà, les Floods, ça change vraiment l'ambiance en fait du jeu, qui prend encore une fois une autre direction, puisque là, on se découvre qu'il y a cette espèce de nuée de zombies, de machins zombies qui nous attaquent.
C'est vraiment le truc, parasite qui vient bouffer. Bon, c'est du alien.
C'est assez classique sur le côté SF.
Avec une espèce de hive mind, bien sûr, qui les contrôle tous.
Très organique.
Et voilà, très organique, qui a une envie de tout dévorer. Et donc en fait,
Même le Master Chief, il arrive quand même à survivre à tout ça parce qu'il est trop fort. Et il arrive au moment où il va pouvoir activer le halo comme lui avait demandé 343, Cortana apparaît à ce moment-là en disant « Vous ne passerez pas dans
non,
ces...
stop !»
Et donc, elle lui explique qu'en fait, c'est un piège. L'IA, elle la manipule en fait depuis le départ. Le Halo n'est pas pour détruire les Floods, mais pour détruire toute la vie dans la galaxie, puisque la seule solution qu'on trouvait, une espèce ancienne, antique, qui s'appelait les Forerunners...
Les Protoss,
Les Forerunners, c'est pas vrai, il est intenable aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai, littéralement... Non, mais juste
mesdames, messieurs qui nous écoutez, il faut savoir qu'il a mangé une tartelette à la pomme cannelle ce matin, de la boulangerie authentique, et vraiment
sugar rush.
C'est
quand même marrant, c'est littéralement dans les grandes lignes le scénar de StarCraft, où il y a le même genre de type d'aliens antiques et tout qui sont en train de fuir une espèce très organique, et pareil, ils détruisent littéralement des planètes entières.
Mais dans Warhammer 40 000, il y a aussi les tyrannides qui embêtent le monde.
Je dis pas que StarCraft a tout inventé, bien évidemment.
On est d'accord. Donc,
non, mais c'est bien que les gens découvrent aussi le côté
l'envers du décor
de Maxime, parce que parfois, on pourrait croire qu'il a du recul sur les choses, mais dès qu'on commence à mentionner ces trucs-là...
On parle des bouquins Halo, moi j'avais les bouquins StarCraft.
Non, mais en plus, c'est rigolo, parce que tu sais, dans ma tête, quand tu vois, je m'imagine quelqu'un qui a transcendé comme ça le statut d'humanité, je m'imagine Max, tu vois, en train de méditer sous une cascade en haut d'une montagne.
Tout, mais en fait, non.
Dès qu'on parle de StarCraft, c'est
ses APM sur StarCraft, c'est ça qu'il faisait.
Donc,
bon, revenons à l'histoire.
Revenons au Master Chief. Donc, Cortana empêche le Master Chief de faire une grosse connerie et de détruire toute la galaxie. Donc, le Master Chief, hop, on shift encore une fois d'histoire. Et cette fois-ci, ben, en gros, on doit prévenir le Captain Keyes que c'est la merde et que le Halo est beaucoup plus dangereux que ce qu'ils imaginaient. Et donc, on se retape tout le jeu à l'envers pour retourner le retrouver, ce fameux capitaine. Manque de bol, il a été absorbé,
parasité par les
Floods, donc on est obligé de le tuer, et la seule solution en fait que trouvent Cortana et le Master Chief de faire tout ça, c'est de faire péter
le halo
en faisant exploser le Pillar of Photon, donc
le
vaisseau dans lequel ils sont, pour justement empêcher l'activation de ce truc là et voir ce qui va se passer. Fin du jeu, là à ce
fin
moment là
du game, même,
ouais, fin du game, générique, tout ça, et scène post-crédit.
Oh là là, avant les Marvel.
Avant les Marvel, exactement. Et là, on voit juste bêtement 343 Guilty Spark qui flotte. Et évidemment, John Spartan, donc, enfin, le Master Chief, parce qu'on ne sait pas encore comment il s'appelle à ce moment-là, qui dit ce n'est que le début ou un truc comme
oui,
ça.
Ce n'est que le début du combat.
Ah oui, il n'y a pas une scène où il enlève son casque, mais hors caméra, tu vois. Tu
et
vois,
on se rend compte que c'est une femme, non, ça c'est Metroid.
Mais je crois qu'il enlève son casque et c'est pas filmé. Bref, oui, ça me disait quelque chose.
Ah, c'est possible, c'est peut-être dans les autres. Donc voilà pour l'histoire. Moi, ce que j'avais trouvé cool, c'est ce côté, tu vois, où en gros, au début, on ne sait pas vraiment ce qui se passe parce que c'est juste, ben, on doit fuir les Covenants. Ensuite, bon, ben, on doit mener l'enquête. Ah merde, ben, l'enquête, c'est le bordel. On doit activer les halos. Et en fait, non, il faut surtout pas activer les halos. Donc voilà. C'était quand même un petit peu
c'est
pas mal de twists, pas mal de rebondissements.
C'est les bases en fait de l'univers de Halo, parce que tous les délires justement sur Master Chief, le soldat augmenté, les enfants qui ont été enlevés et puis modifiés génétiquement pour être des super guerriers, ça viendra bien après en fait.
En fait,
c'est pas des
alors
choses
bien
sont...
après, oui et non,
il
ça
y a
vient
des indices, en fait,
quelques semaines après, justement dans la sortie du premier bouquin Halo qui s'appelle Fall of Reach, qui commence du coup à poser les bases de l'univers et qui va effectivement démarrer ce destin cross-média de la série Halo. Puisque Halo, je ne sais plus à quel moment on va en parler dans l'émission, mais on fera un petit point là-dessus. C'est une série qui a largement dépassé le cadre du simple jeu vidéo.
Tu feras toute une partie sur l'univers.
J'ai
Halo
lu les 30 livres de Halo. Et, non, mais en fait, tu vois, c'est le côté. À force d'entendre des collègues qui en parlent pendant très longtemps, au bout d'un moment, tu t'intéresses à ce qu'ils disent. Puis eux, ils sont à fond dedans. Donc ils te racontent oui, mais à un moment, il y a l'arbitre, en fait, il a été puni, et donc il se retourne, et tu joues l'arbitre dans Halo 2 et tout ça. Et donc là, voilà, tu connais toute l'histoire, en fait, au bout d'un moment, et voilà, tu deviens fan de Halo sans le faire exprès.
Mais avant ça, il y a le jeu, et c'est vrai que moi, donc j'ai pas rejoué pour l'émission puisque vous le faisiez tous les deux.
Parce
déjà,
que t'en as rien à. Voilà,
exactement.
Voilà. Il jouait à StarCraft encore.
Alors, il a pas mis ses lunettes aujourd'hui.
Je sais que ta carrière est derrière.
Calmez-vous quand même.
Tu sais, c'est l'ancien Okage, tu sais, qui est parti, c'est Jiraiya. J'ai mis ça derrière moi, c'est fini.
Ça fait longtemps
vous
que
êtes
c'est fini.
C'est intenable aujourd'hui. Hein. Ah là là, c'est terrifiant.
Mais moi, je me souvenais pas qu'en fait, il y avait cet aller-retour en fait, dans le jeu. J'avais complètement oublié. C'est un truc que.
Ça m'a un peu surpris parce que je trouvais ça un peu ça arrive un peu comme sur un cheveu ou sur la soupe. Alors ce qui est sympa, c'est que bon, ils ont réussi quand même à changer le rythme, hein, puisque du coup dans la deuxième moitié il y a les Floods qui attaquent les Covenants et nous on essaye de survivre un petit peu au milieu de tout ça, mais c'est vrai que bon, tu sentais que disons qu'avec le recul aujourd'hui tu te dis oui ok, tu vois à quel moment ils ont commencé à galérer de ouf dans le développement pour qu'ils se disent en fait on va refaire le même jeu à l'envers.
C'est DMC3, c'est vraiment ça, genre on est arrivé au bout, on a plus de temps là, ok bah c'est pas grave, le perso tu me le fais revenir. Et c'est vrai que vraiment littéralement moi ça m'a choqué, je fais ah ouais, on refait en fait, on
ben
repart
ça,
dans alors ce qui est assez fort et on en parlera, c'est que le level design permet que ça soit pas si enfin que ça passe en fait.
Ouais mais, ça fonctionne plutôt bien,
mais bon c'est vrai qu'il y a vrai cet aller-retour, toi du coup que t'avais complètement oublié parce que c'est des choses qu'on oublie avec le temps, mais voilà, ça fait partie des contraintes de création. Voilà, on l'imagine comme le jeu il a été modifié, enfin tout s'est fait quasiment sur la dernière année, on comprend cette espèce de recyclage qui est utilisé dans le jeu.
Donc toujours est-il que l'histoire ne fait que démarrer avec ce premier Halo, ça permet d'introduire un peu l'univers. Pour un FPS, on aura l'occasion de le redire, mais ça permet aussi de poser des bases d'un univers un peu plus dense que ce qu'on a l'habitude de voir à l'époque. Et très rapidement, surtout, le jeu va s'imposer en tant que FPS comme étant la référence du jeu FPS sur console.
Parce que du coup, on va peut-être revenir un petit peu contextualiser tout ça. On en est où sur le FPS là en ce moment? Et là, je me tourne encore une fois vers Maxime, qui n'est pas simplement un pro de StarCraft, qui est aussi un pro de... On invente le
jeu. Ouais, complètement.
Non,
ouais.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passait un petit peu sur le PC? Il y avait déjà Quake 3 qui était sorti, parce que Doom, c'est...
C'est début des années 90, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Entre-temps, il y a surtout eu... C'est 91. Il y a eu...
Non, Quake 3.
Ah, c'est 97, 98,
ouais, c'est dans ça. Là, c'est sorti depuis un petit moment.
Il y a Unreal Tournament, il y a Counter-Strike, il y a évidemment du coup Half-Life qui est déjà arrivé. Donc le FPS en fait est vraiment en train de prendre sa position comme étant le genre maître du jeu vidéo. Ouais. Enfin, pendant
vraiment
ces années-là, pour moi, c'est le truc par excellence,
et
c'est le FPS.
Et multi du coup.
Et multi, effectivement. Puisque va y avoir le parti histoire grâce à Half-Life et la partie multi, parce que entre Quake 3, Unreal, Counter, vous voyez, on a quand même trois gros jeux qui cimentaient toute la scène multijoueur à l'époque.
En tout cas, sur PC, parce que face, bon après il y a toujours des licences qui existent toujours, il y a toujours du Wolfenstein qui continue d'exister, il y a Quake 4 qui tardera pas trop à sortir, mais Half-Life 2 va pas trop tarder non plus, mais sinon il y a Medal of Honor, hein, qui est, je crois que le premier c'est 99, on avait vu, donc
oui,
qui
sur PlayStation
sort,
1, ouais. C'est ça, c'est fin vraiment de l'époque PlayStation 1, donc Medal of Honor qui va lui aussi devenir une des licences FPS importantes. Avant ça il y a eu GoldenEye, hein, si on veut parler
console,
aussi de jeux de FPS multi, qui a vraiment posé les bases de plein de choses sur le FPS console, et ce qui sortira à peu près dans les mêmes eaux, j'ai noté
c'est
quoi,
la même
de
époque
Guerilla.
Qu'on avait noté, ouais, donc c'est, non, il y avait Red Faction
pardon, excusez-moi,
donc voilà,
ouais.
Qui était connu
c'est 2002,
parce que c'était le jeu où on pouvait détruire les murs, ça c'était cool. C'est l'époque de Time Splitters aussi.
Time Splitter 2 et Nightfire aussi, du coup,
ouais,
la suite
un autre
James Bond qui sortira, ils sortiront tous en 2002. Donc voilà, en gros, il se passe à peu près ça dans le FPS, à la fois PC et console. Mais ce qui est super intéressant avec Halo, et c'est vraiment, bah, nous, ça nous a sauté un peu alors aux yeux et aux mains en y jouant, c'est que bah, c'est un FPS qui avait vraiment une proposition... un mix de plein d'éléments en fait de game design qui font que bah, c'est un truc très unique en fait. La première chose sur laquelle on peut revenir, c'est déjà bah, la structure, j'en parlais là, des niveaux. Il y a des niveaux qui sont très ouverts, alors il y a quand même pas mal de jeux qui se passent dans des couloirs, hein, des couloirs qui vont se répéter, se copier-coller parfois de manière un petit peu abusée, mais bon voilà, ça c'était l'époque qui voulait ça. Mais par contre, il y avait ces grands niveaux ouverts, et c'est d'ailleurs là-dessus que se vendait le jeu, hein, ces espèces de grands espaces sur ce fameux halo terraformé comme ça, de la plage, des forêts, des trucs comme ça. Et bah, on pouvait vraiment se balader dans ces grands espaces, et ça c'était très innovant pour un FPS qui était quand même des trucs très
linéaires. Il n'y avait pas forcément des objectifs, tu vois, qui étaient imposés, genre aller au point A puis au point B ou quoi que ce soit. Le premier niveau que du coup bah, j'ai découvert en faisant le jeu, c'est le côté tu dois aller sauver les survivants, et en fait bah, tu te balades, t'as ton petit Warthog et tu vas à des poches où il y a potentiellement des endroits où il y a des survivants et tu les aides à ce moment là donc il y a quand même le côté très libre dès le début du jeu, quoi.
Bah, ça tu l'as dit, les véhicules, c'est quelque chose qui va bien avec les environnements ouverts et qui est hyper réussi dans Halo. Ouais, c'est tous ces véhicules là t'auras plusieurs, t'as le Warthog comme tu dis, donc c'est l'espèce de jeep avec la mitrailleuse dessus, et qu'une IA d'ailleurs peut une IA
oui
peut
alors ça c'est vrai, on aura l'occasion de le redire, mais l'IA, voilà, les Marines que tu peux aider quand tu te rapproches d'eux, ils grimpent et ils se mettent à tirer sur les ennemis avec toi, c'est génial.
Et en multi, c'est du coup aussi super cool. Il y a
les Banshees,
tu peux voler avec les Banshees, tu peux vraiment voler dans le niveau,
et ensuite t'as les petites espèces,
alors je crois que les tanks on peut pas les monter, mais il y a des espèces de petites motos volantes.
Ah si, tu as toute une section dans un jeu où justement t'as un
mais
tank,
si oui, en plus t'as toute la
section,
c'est ça,
une grosse attaque et tout, et t'es dans le tank, tu mets des gros shoots de partout. C'est un moment assez épique, je trouve. Bon, même si forcément il y a pas la mise en scène qu'on verrait aujourd'hui.
Et c'est quand tu reviens que tu as les vaisseaux et
exactement,
tu peux commencer à voler. Et du coup, ça permet de jouer un peu avec
les petites motos des Covenants. Et après, t'as les Banshees qui sont vraiment des vaisseaux qui vont voler. Et ça, bah, le jeu te permet de toutes les contrôler. Donc à côté du FPS, t'as tous ces déplacements permis par ces environnements libres qui sont sublimés comme ça avec ces véhicules. Et ouais, c'est bah ça, il y a aucun FPS qui faisait ça de
alors,
cette manière à l'époque.
T'avais déjà Battlefield qui commençait à arriver avec cette proposition de l'idée de faire du véhicule, mais on était dans une optique vraiment de pure multi. Là, dans un jeu solo, surtout sur console et surtout avec ce rendu graphique, parce qu'on peut le dire, la Xbox était certes un peu plus puissante que la PS2 et elle était par contre beaucoup moins puissante que ce qu'ils avaient annoncé au départ, mais l'équipe de Bungie a réussi à vraiment tirer le maximum de la console, parce que le jeu, même encore aujourd'hui, tu vois, moi je l'ai fait donc dans la version Anniversary, donc c'est la version remasterisée qui est dispo maintenant dans la collection Master Chief, et en fait, bon, je me suis rendu compte que la version remasterisée, je la trouvais assez moche, je trouve qu'il y a des soucis de couleur, il y a des soucis de lumière, enfin, la version originale du jeu, elle est tout à valable encore aujourd'hui, hein, elle marche très bien.
Hein. Oui, tout à fait, et puis même, on en discutait là dans la préparation, c'est vrai que cette esthétique rétro avec ces environnements ouverts, aujourd'hui on les ferait plus comme ça, même sur un autre moteur il y aurait beaucoup plus de détails, alors que là juste un aplat un peu HD qui fait que c'est un peu vide, un peu tristounet, dès qu'on repasse dans la version originale, je trouve que ça prend
ça
tout de suite une envergure
ouais.
différente, les couleurs elles marchent bien vraiment. Alors je sais pas si en ce moment je me fais matrixer par mon retour un peu rétro, mais je trouve que ces jeux de cette époque là ils ont une vraie identité, et que les jeux qui étaient beaux à l'époque je les trouve toujours beaux en fait aujourd'hui, parce qu'ils ont justement cette esthétique particulière. Et c'est super joli, ça marche bien.
Et puis tu vois qu'il y a quand même, même tout un vrai travail sur la direction artistique pour rendre le jeu lisible. Alors qu'il s'agit d'un FPS, donc ça bouge quand même assez vite. Les gens, en fait, ça là-dessus, les gens de Bungie, ils ont vraiment bien réfléchi leur approche. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment dit, on a une console, ça veut dire qu'on va jouer avec une manette, ça veut dire qu'on va jouer sur un téléviseur, ça veut dire qu'on veut jouer en multi, en écran splitté, mais il faut que ça reste jouable, donc avec un petit écran, parce que à l'époque, les écrans LCD, c'était pas 112 cm de diagonale. Hein, tu vois, si t'avais un 56 cm, t'étais le roi du pétrole. Moi, j'avais mon 36 cm.
Mes deux frangins, on était là avec nos petits écrans qui allaient, faisaient une Switch, on va dire aujourd'hui, et on jouait. jouait comme ça. Donc oui, c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait des couleurs qui soient criardes, qu'il y ait une lisibilité vraiment de l'action. Et ouais, le jeu s'en sort vraiment très 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 bien là-dessus.
Et donc, non seulement la partie visuelle, la partie technique est impressionnante, on l'a vu, en plus de ça, il y a une diversité des activités qu'on peut faire dans ce jeu-là qui est assez folle, le côté véhicule avec les phases vraiment de pur véhicule, etc., avec des niveaux qui sont pensés pour qu'on s'y balade et qu'on se fasse plaisir.
Il y a un séquençage comme ça. Ouais. C'est assez surprenant parce que t'as des niveaux qui sont très grands, tu peux les faire à pied si tu veux, mais c'est vrai que bah, t'as un Warthog qui est posé à côté, t'as un tank, du coup on t'invite vraiment à faire des longues séquences comme ça en véhicule.
Petit instant révélation, je kiffe de ouf le feeling de conduite du Warthog. Vraiment, j'avais du mal au début et donc je l'ai fait au clavier souris sur la version PC là, de Halo et c'est trop bien. Enfin, vraiment, en termes de sensation de véhicule, ça marche.
Un petit temps d'adaptation, mais
oui,
ouais,
parce que ça marche trop bien. Diriger avec le, enfin, en tout cas sur manette, c'était le joystick qui dirige.
En fait, elle
en
suit
fait,
ton regard.
Exactement, comme un perso.
Surtout comme une vraie bagnole. Mm. C'est-à-dire que du coup, il y a un côté assez instinctif et tu peux t'amuser à faire des super dérapages, etc. Je me suis éclaté, donc voilà, le Warthog, c'est très bien.
Et puis surtout, je trouve que tu sais, ils avaient direct pensé au fait que t'appuies sur un bouton et bip, tu sais, il fait un petit flip le Warthog et il se remet debout au cas où tu t'es.
Oui, c'est ça, tu te dis, putain, c'est super malin de penser à ça.
Tu vois, il y a une vraie ergonomie par rapport à ce truc là avec les monkeys, avec les monkeys, les mecs qui vont grimper avec toi. Oui, j'ai fait un gros raccourci, mais ouais, il y avait un feeling qui est super intéressant. Et ouais, dans les niveaux, effectivement, il y a ce séquençage comme ça de l'action. On alterne entre des grandes arènes, ensuite hop, on grimpe dans le véhicule, on va faire parfois des kilomètres avec le truc et ensuite on retombe sur une arène, donc c'est assez intéressant.
Après tu auras des moments un peu plus resserrés, d'autres où on te file un sniper dès le début, comme ça tu peux t'amuser à te placer un petit peu, jouer un petit peu avec la topographie, parce que bon, c'est pas non plus encore ultra vertical, mais il y a quand même quelques petites idées. Après tu vas rentrer dans l'immense niveau de la bibliothèque là, qui est interminable avec les floods.
Ouais.
Bon, petite baisse de rythme à ce niveau là mais sur la deuxième moitié du jeu, là c'est vraiment la course, tu vois, la course contre la montre pour retrouver le capitaine Keyes, et là c'est pareil, ça enchaîne les grosses scènes d'action non-stop, quoi.
Donc ça, déjà, je pense que c'est le premier élément vraiment marquant de la recette de Halo, c'est cette complémentarité gunfight et véhicule. Mais pour revenir vraiment sur les gunfights, je trouve que là aussi ils ont un game design qui est super élégant dans leur manière d'apporter les choses, qui se repose sur deux choses. Déjà sur ce bestiaire qui est à la fois très complémentaire, donc il y a les petits grunts hein, avec leurs petits voix qui sont assez rigolotes.
C'est les Jawa de Star Wars.
ouais, c'est ça, t'as ça, et puis t'as différentes, hein, les races, hein, parce que les Covenant, en fait, c'est plusieurs races d'aliens qui sont entre elles, et forcément, bah, chaque race va avoir une fonction très vidéoludique. T'as le petit menu fretin, le truc un peu du milieu avec un bouclier, et puis t'as
les élites.
Les élites, voilà, qui sont beaucoup plus difficiles à tuer. Et voilà, toutes ces petites compositions d'ennemis qui marchent bien entre elles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi cette petite alternance entre le plasma et les balles, puisque le jeu fonctionne avec des boucliers. Les ennemis, il y en a qui ont des boucliers vraiment physiques, ils tiennent un bouclier. Et puis, t'as les élites, eux, leur armure, comme la nôtre, elle est constituée d'un bouclier. Et du coup, bah, c'est intéressant de jongler entre les armes à plasma, donc les armes aliens, pour pouvoir désactiver les boucliers, et ensuite de tirer à balles réelles sur... Pour les tuer plus rapidement.
Et d'ailleurs, on peut préciser que c'est Halo qui va plus ou moins, on va dire, démocratiser cette idée que dans le FPS, on a finalement que deux armes. Parce que vraiment, à l'époque, c'est, enfin, tu vois, le modèle, ça reste encore Doom, Counter, Half-Life, où on a toutes les touches de 1 à 0, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, pour avoir toutes nos armes, les grenades, les machins. Là, ils se sont dit, bah non, tu vois, ça va être compliqué à prendre en main avec la manette, surtout que eux, ils avaient vu la manette de la Xbox à l'époque, ils savaient ce que ça allait être. Parce que bon, voilà, je veux dire, petite parenthèse, la manette de la première Xbox, c'est pas l'espèce de modèle d'ergonomie qu'on a aujourd'hui, hein, ça, là-dessus.
Ils ont fait des sacrés progrès,
grâce à leur nouvelle manette rouge sortie récemment. Non mais et donc ils ont cette idée de faire que deux armes, et donc pour pas rendre ça effectivement monotone, bah ils ont forcé les gens d'une à pouvoir ramasser les armes de leurs ennemis, puisque les munitions, c'est pas on ramasse des munitions, c'est on ramasse les armes. Et donc cette idée de jongler entre les armes énergétiques, les armes avec des balles plus cinétiques, plus classiques, pour jouer justement sur détruire le bouclier, détruire la vie, etc.
Et en plus de ça, t'as différentes armes qui ont différents styles tout simplement de tir, tu vois, tu peux avoir un snipe, ou dans les armes, je me souviens, Alien, t'en as une, bon, qui est exactement comme Half-Life, tu sais, où ça tire un peu des espèces de petits picots violets.
Ah, le Diggler, ouais. Et ça explose quand on tire suffisamment, je crois.
Et t'en as un autre que tu peux charger, un truc vert, tu sais, charger. Donc, y a en plus ces gameplays différents, et c'est aussi, t'as aussi les grenades, donc t'as deux armes et les grenades, et donc t'as les grenades humaines normales à fragmentation et les grenades à plasma que tu peux stock sur des ennemis. Et je crois, est-ce que c'est là qu'ils se mettent à partir, parce que parfois ils partent en courant les grenades, mais quand tu les stocks, ils le font, je crois.
Oui, ça d'ailleurs, c'est, on peut le citer aussi, c'est que à l'époque et encore aujourd'hui, l'intelligence artificielle des différentes des différents ennemis de Halo, c'était quelque chose qui était salué par la critique à l'époque. Et c'est vrai que moi, on y est Jean-Louis, on y est joué là il y a quelques temps, j'étais impressionné parce que c'est vrai que les grunts, comme ils sont tout petits et qui sont un peu couards, tu vois, quand ils sont tout seuls, tu les vois qui se barrent en tirant en l'air comme ça n'importe
quand
comment.
Tu tues leur
c'est
chef,
marrant.
D'ailleurs, si tu tues un élite, tu sais qu'il y avait quelques grunts autour, bah ils se barrent, ils commencent à courir,
ils paniquent, tu vois. Donc ça donne des situations assez rigolotes et toi tu peux jouer avec ça. Enfin, il y a vraiment pas mal de situations en fait qui sont nées de petits moments comme ça de gameplay parce que leur IA elle était rigolote quoi.
Et t'as parlé du bouclier, mais c'est aussi le jeu qui a démocratisé le bouclier qui se régénère. Enfin, ouais, je sais pas, c'est le
qui
s'est inventé ou pas, peut-être pas, mais
on s'amusera pas à faire la grosse historique. Par contre, en tout cas, en termes de popularité, c'est vraiment lui qui a imposé ce modèle-là, alors qui est un petit peu différent du modèle qui s'est vraiment imposé par la suite, puisque là, dans Halo, on a une barre de vie traditionnelle qui va se vider,
avec
et par-dessus, ce bouclier qui se vide et se recharge en allant se planquer. Ça, c'est ce que garderont finalement tous les autres jeux par la suite, hein, cette espèce de dynamique. Donc, je prends plein de balles dans la tronche, je me mets à couvert, ça revient. Pensez Gears of War, pensez Call of Duty, Modern Warfare, pensez Uncharted. Ça, c'est tous des jeux qui vont fonctionner sur cette dynamique-là. Et c'est vraiment Halo qui va imposer ça. Et c'est ça qui dicte aussi la rythmique des combats, puisque on se met à couvert, on rattaque un petit peu. Et forcément, ça permet aussi de prendre un peu des risques avec ce bouclier. Et ça qui est cool aussi, c'est que tu peux commencer à t'amuser, à aller taper sur les ennemis, à aller faire des espèces de raids pour aller en taper plusieurs. Et ensuite, tu vas te replanquer. Parce que le bouclier, comme c'est une ressource qui revient et qui est infinie, tu peux prendre un peu plus de risques. Et c'est vrai que ça donnait.
Et ça renforce en fait ce côté surpuissant du guerrier, tu vois, du Master Chief, où tu te dis, il a une grosse armure, comment c'est justifié? Parce qu'il peut effectivement encaisser beaucoup de choses sans mourir.
Et tu parlais de taper, et tu peux taper littéralement au sens propre du terme, tu peux foutre des coups de mêlée, des coups de crosse de fusil, et ça c'est un truc qui n'était pas non plus particulièrement répandu. Il y avait déjà des armes corps à corps qui existaient, mais dans des jeux type Half-Life ou quoi, c'était pas le cœur du jeu, tu vois, tu te servais pour casser des caisses.
Non, c'était au contraire, c'était le premier niveau, tu vois, t'avais la crowbar de
Half-Life. Après ça pouvait te servir sur les headcrabs ou des trucs comme ça, mais c'était plus une arme qui allait être intéressante, alors que là dans Halo, le coup de mêlée il fait vraiment mal.
En fait, tu as un bouton dédié pour faire du mêlée en même temps avec ton arme. Du coup, c'est vrai que c'est souvent que tu vides tout ton chargeur et après tu mets le petit coup dans les dents. Ce n'était pas le bruit effectivement le plus approprié pour un coup dans les dents.
Mais ça marchait bien.
C'est un petit chplus.
C'était une petite dent. C'était une petite dent tout nette.
C'est la canine cap. Elle part comme ça. Mais et du coup, tu allais le dire effectivement, si on le fait dans le dos d'un ennemi,
ça le one shot direct. Il y a ce côté en fait où il y a une mission dès le début où on nous dit tu peux arriver discrètement derrière les adversaires. Donc on n'est pas dans l'infiltration avec les hautes herbes, ça c'est arrivé des années plus tard, mais il y a quand même cette idée que si tu passes dans le dos, tu peux faire un one-shot, et évidemment cette règle-là est gardée pour le multi.
Et en plus de ça, t'as des animations différentes en fonction des armes. Moi je me souviens, si tu fais avec le flingue, parce que c'est l'arme dont on sert en multi, quand tu fais vraiment un coup dans la nuque,
les vrais se servent du flingue.
Il y a une espèce d'anime où il prend à une main le canon du flingue, il tape avec la crosse et il fait hop un petit tour autour de la main.
Le Magnum, assez plaisant. Alors, petite anecdote que j'ai découvert dans le livre... Halo, le Space Opera, selon Bungie, édité chez Third Edition, mais pas que. Et donc, en gros, c'est un des fondateurs de Halo qui, juste avant d'envoyer le jeu au pressage, tu vois, la nuit, en mode en scred, il a été voir les stats du Magnum et il a fait genre x10, tu vois, pour rigoler en disant, je veux qu'il y ait cette arme qui soit super puissante, et c'est resté. Et c'est de rentrer dans le lore, tu vois, de Halo, et ça marche très bien.
Full shield, full vie, en deux headshots, tu tues quelqu'un.
Voilà, c'est vrai qu'il est extrêmement puissant, c'est vraiment pas une arme à négliger, et en plus, alors je crois que tu as les armes infinies, il me semble, dans le... Je voudrais pas dire de bêtises, dans le solo. Si sur le Magnum, tu as les armes infinies.
Non, parce que je me souviens, j'avais refait le solo après avoir joué au multi, du coup, je voulais jouer qu'au flingue, mais tu trouves pas toujours assez
de balles. Il n'y en a pas tout le temps non plus, parce que la plupart du temps, tu te balades avec les armes aliens, en fait.
Ouais. Et du coup, tout ça pour dire que c'est vraiment un jeu qui est très bien adapté à la console, puisque pourquoi le coup de mêlée, il a cette place-là. Le shield régénérant, c'est pas forcément, je pense, une idée console, mais il y a une autre chose qu'on peut citer, c'est les sauts que je trouve intéressants, parce que c'est des sauts qui sont très très amples, en fait. Si vous avez déjà joué à Half-Life, ou plutôt des FPS PC, si vous sautez dans Halo, ça va vous choquer, parce que tu fais un saut qui est 5 fois plus long que...
Tu voles, t'as beaucoup de air control aussi, ce qui est pas du tout le cas dans Half-Life.
Ça fait plus Unreal, tu sais, sur les niveaux, il n'y avait pas de gravité.
Avec les bumpers.
Et ouais, sur Xen, quoi. C'est les sauts de Xen dans Half-Life. Et bah, ça, je pense que l'idée derrière, c'est bah, pour te donner beaucoup plus bah, de contrôle, pouvoir viser calmement, avoir beaucoup plus de temps pour viser. Parce que la visée sur manette, c'est un peu plus long, un peu plus compliqué que sur PC. Donc, faut prendre tout ça en compte. Et ils ont fait plein de bonnes décisions, en fait, plein de bonnes décisions de game design pour faire un FPS sur console.
Oui, c'est ça qui va surtout favoriser le mouvement, le positionnement, qui va surtout te demander de plutôt apprécier la situation par rapport au bouclier, quelle est la composition des ennemis, quelles sont les deux armes que j'ai à ma disposition, comment je vais jouer avec ça. D'ailleurs, même, il y a plein d'armes qui vont viser directement les ennemis. Hein, le Nidler, ouais. Là, tu disais, ça va direct dessus.
Ça
je crois
que
l'espèce de gros truc vert, il y a un beau gros aimant quand même à balle. Et je pense qu'il y a une aide à la visée globale. Enfin, c'est un jeu où c'est facile de viser avec la manette parce que, en plus, les ennemis sont super gros. Parfois, tu es dans des arènes qui sont très proches. Enfin, la visée n'est pas un enjeu comme ça va l'être sur un FPS vraiment genre Counter-Strike où c'est, tu sais, la petite porte entrouverte et bim, je mets le headshot. C'est pas du tout ça qui se passe dans Halo. Et ouais, comme tu le dis, bah, c'est des gens qui ont compris qu'ils allaient faire un FPS console et qui ont basé tout leur game design dessus pour que ça marche sur cette plateforme.
Et en parallèle, on peut citer Metroid Prime qui est sorti en 2002. Mm-hmm. Et là aussi, c'était donc. Alors, j'avais un Nintendo, mais j'ai oublié le nom du studio qui a.
Retro Studio, ouais.
Retro Studio. Et eux aussi, ils avaient cette contrainte de faire un. Alors, c'est pas vraiment un FPS, c'est un FPA, la First Person
Adventure.
Non, mais justement, c'était leur com marketing, oui, enfin, oui, c'était leur nomenclature, ils l'annonçaient comme ça. Et c'est vrai, tu vois, Metroid Prime, c'est pas vraiment.
Bah, la visée est complètement mise de côté grâce au lock.
C'est ça, eux, ils ont pris le parti de faire un lock, d'avoir. Alors, t'as pas deux armes, mais t'as un canon qui va se changer, mm-hmm. t'as trois ou quatre formes différentes, ouais. Tu peux faire des tirs chargés et t'as la touche des missiles. Mm-hmm. Mais parce que l'expérience, eux, ils avaient d'autres contraintes, ils avaient une autre.
Ouais,
un
c'est
autre
plus
type de
basé
jeu
sur l'exploration, le côté puzzle, etc.
Voilà, sur le côté backtracking, il y a la map et tout, se repérer, c'est ça l'expérience Metroid. Et là, ils ont dû l'adapter à la première personne et ils ont fait leur propre choix avec notamment donc, le lock.
Tout à fait. Donc ouais, deux alternatives. Et d'ailleurs, on peut aussi parler de Killzone qui lui sortira bah, juste quasiment en même temps que Halo 2. Hein. 7 jours près, il sortira le jeu. Et là, c'était un peu le bah, pas le Halo Killer, mais c'est vrai qu'on sentait que Sony voulait venir un peu sur ce terrain-là des FPS sur console. Et c'est pareil, Killzone, c'est un jeu qui. Alors eux, ils ont pris la solution de tu sais des armes qui sont très très lourdes, on se déplace tout doucement avec beaucoup de corps à corps aussi, des choses comme ça. Donc là aussi, des solutions pour faire du FPS console.
Et pour l'anecdote, Halo 2, j'avais acheté, je crois, peut-être un ou deux ans après sa sortie, il était vraiment pas très cher. Je suis tombé dessus, je me suis dit, ah, tiens, je vais le prendre. Et c'était une exclu Windows Vista. Le PC familial n'avait pas Windows Vista. C'était une époque formidable.
Et du coup, Maxime n'avait pas pu jouer.
Je n'ai pas pu jouer.
Et donc, voilà. Il s'est retourné jouer à StarCraft. Et puis, il est aigri. Voilà.
Je n'ai pas beaucoup joué.
C'est les protos qui ont tout inventé.
Tout ça pour dire que vraiment Halo, ça marque en fait une nouvelle étape dans le jeu sur console et surtout dans l'approche du FPS sur console, parce que ça montre d'une part qu'on peut vraiment à la fois créer un FPS, on va dire, pertinent, tu vois, en termes d'histoire, en termes de narration, en termes de level design, mais également jouable, parce que c'est vrai que, ben, à cette époque, il faut quand même se souvenir que le jeu sur console, ça a quand même une certaine image. Il y a vraiment cette séparation un peu PC. Tu vois, on joue sur manette, clavier, enfin, c'est clavier-souris. Et effectivement, à la manette, on se dit pas qu'on va pouvoir viser. Et surtout, les gens qui vont avoir cette nouvelle console, ils ont pas encore l'habitude. Donc, ils ont eu cette approche, tu vois, qu'on avait pu un peu définir à l'époque de l'épisode sur Mario, où comme Nintendo, ils se sont dit, ben, comment on va penser notre jeu pour que les gens qui découvrent la manette et cette méthode de contrôle s'en sortent et profitent et s'amusent.
Non, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que même encore aujourd'hui, tu vois, il y a ces débats genre « jamais je joue à un FPS sur console », tu vois. Et pourtant, si un FPS, bah, il est designé pour console, bah, ça marche parce qu'on a pensé le périphérique dans le processus créatif. Et alors, bien sûr, c'est vrai que tu viseras toujours mieux avec une souris, hein, y a cette vérité-là. Mais par contre, bah, si tu crées un jeu où c'est pas l'enjeu principal et où tu crées des dynamiques pour que ça marche bien avec une manette, bah, tu peux faire de très bons FPS qui sont très bien à jouer sur console. Et déjà, ils le prouvaient.
Là, avec Halo, bon, bah, t'as des arènes où tu peux vraiment bien te positionner. Le fait que les ennemis soient pas constamment en train de t'attaquer, qu'il y ait des moments de pause, qui fuient, que tu dois récupérer leurs âmes. En fait, le rythme des arènes et des combats fait que bah, t'es pas dans une espèce de tu vois, d'urgence de viser vraiment comme un pro, comme dans un Unreal ou quoi que ce soit. Donc comme tu le dis, c'est ça, c'est en fonction de ce que tu proposes, tu peux arriver tout à fait à proposer une expérience en première personne. Alors après, les débats sur viser, pas viser, machin, on s'en fiche, mais toujours est-il que ça marche très bien. Et encore aujourd'hui, tu vois, moi j'y ai joué clavier-souris et ça passait vraiment très très bien, quoi.
Tout ça pour dire que voilà, jeu très réussi, hein, ça avait été aussi validé à l'époque, hein, 97 sur Metacritic, c'est quand même un score.
Là, on est vraiment dans les top du top.
On est dans le haut du du panier. Et puis même, bah, je pense qu'on se le disait, à jouer aujourd'hui, bah, c'est pas déconnant du tout. Ça marche super bien. Et c'est pour ça, vraiment, moi, je le dis, je connaissais pas très très bien la série. Alors, j'avais joué au 3 à l'époque sur 360, un peu après sa sortie. J'avais pas tant à adhérer que ça. Mais là, aujourd'hui, en essayant vraiment bah, de faire les recherches pour l'épisode, en essayant de dire, bon, bah, ok, pourquoi cette série-là, elle est devenue si importante? Alors, même si on va expliquer aussi qu'il y a d'autres raisons à côté, en fait, à la base, c'est parce qu'il y a un jeu qui est vraiment bien foutu, qui était super pertinent en son temps et qui, encore aujourd'hui, n'est pas du tout déconnant en termes de design.
Il n'a pas vraiment vieilli parce qu'en fait, tu te rends compte que la plupart des FPS récents reprennent tellement d'aspects au niveau bah, des choix de touches, tu vois, au niveau des choix de game design avec le côté les deux armes, le corps à corps, la grenade, enfin, dans la rythmique ou même dans la proposition en termes d'activité avec les véhicules, les machins. Bah, c'est un jeu qui joue aujourd'hui, en fait, tu t'en rends, à part sur le côté graphique, tu t'en rends pas tant compte que ça a une vingtaine d'années, et ça, je trouve ça rassurant, parce que ça fait toujours un peu peur, tu sais, quand on joue comme ça à des vieux jeux, de se dire, bon, j'y ai pas joué à l'époque pour plein de raisons, j'avais pas la Xbox, tout simplement, mais ça fait peur de te dire, est-ce que ça va être bien, tu vois, j'ai réessayé il y a quelques temps, j'avais commencé à vouloir jouer à Resident Evil 4, le système de visée où il faut s'arrêter, etc. Il y a des trucs.
Maxime, là, non, mais, je vois des pistolets,
quoi. C'est que tu te rends compte que, bah, cette idée de fluidité qu'on a aujourd'hui, ça a pas toujours été la norme, et Halo, en fait, ben, c'est déjà les contrôles qu'on a encore 18 ans plus tard,
ça,
en fait.
Ça,
il n'y a pas vraiment eu de changement.
C'est ça, pour moi, la différence avec Resident Evil 4, puisqu'on est dessus, c'est qu'en fait, quand tu joues à Resident Evil 4 et que tu as dans les mains les contrôles des TPS modernes, bah, tu fais « Ah, oula, là, je suis empêché de faire quelque chose. » Alors que dans Halo, bah, pas du tout.
Tu
as les mêmes contrôles que
tu
joues à Doom Eternal, tu retrouves.
Et d'ailleurs, tu vois, on avait parlé de Doom 2016 dans un épisode. Quand tu vois la logique en termes de game design, sur le côté, on a Heartland, etc., tu te dis que les gens chez id Software, ils ont dû jouer à Halo à un moment donné, parce que vraiment, tu vois l'affiliation, pour moi, elle est assez claire.
Ouais, côté un peu. D'ailleurs, il y avait des gens qui le notaient, on disait que quand on avait parlé de Doom 2016, des gens qui disent « Oui, Halo, il faisait un petit peu ça, ce côté combat chess, tu sais, les échiquiers où il y a différents ennemis avec différents choix. » Et c'est vrai qu'il y a déjà les prémices un petit peu de ça. Alors, id Software, ils vont vraiment pousser les potards sur Doom 2016 et encore plus sur Doom Eternal, parce qu'il s'est vraiment à fond là-dedans. Mais ouais, effectivement, Halo faisait déjà pas mal ça. Encore une fois, voilà, un jeu pas du tout déconnant à jouer aujourd'hui. C'est ça, clairement, c'est le jeu qui va cimenter le truc et qui va faire que c'est devenir un phénomène, mais c'est aussi tout ce qui va se faire à côté, parce que tu l'as dit, quelques semaines plus tard, même quasiment temps que la sortie du jeu.
C'est vraiment à quelques jours près, en fait. Donc il y a le premier livre qui avait été commandé, donc c'était Bungie, je crois, qui avait demandé à ce qu'il y ait un bouquin qui soit écrit, et donc c'est Fall of Reach, en fait, ça raconte la préquelle qui explique en fait pourquoi on commence le jeu Halo dans l'espace avec un vaisseau, on sait pas d'où il vient, et donc bah, ça raconte cette histoire de Reach, ça sera évidemment l'histoire du jeu Halo Reach qui arrivera quelques années plus tard, et à partir de là, en fait, que ça soit Microsoft ou Bungie, ils se sont vraiment engouffrés dans cette idée de cross-média pour vraiment étendre l'univers, le raconter par des bouquins, mais pas uniquement.
C'est un univers auquel Bungie est très attaché, en fait. Là, comme je disais, j'ai relu le chapitre Blood Set One Pixel sur Halo Wars, qu'on pourra mentionner plus tard, mais qui est un RTS dans l'univers d'Halo développé par un autre studio. Et en fait, tu découvres que bah, Bungie était assez, comment dire, protecteur en fait de cette licence. Ils ont dû envoyer un mec qui volait de temps en temps, qui prenait l'avion pour aller chez Bungie pour qu'il leur explique un peu l'univers, l'histoire, ce qu'il pouvait dire ou pas, parce que c'était Halo, je crois, 3 qui était en développement, mais il gardait un peu ça secret sans lui dire, il disait ce qu'il pouvait dire ou pas. Enfin,
ouais, ils ont une espèce de bible, ça, il en parle un moment dans le bouquin, où ils ont vraiment comme ça des bibles de l'univers de Halo, où il y a des milliards de détails qui sont évidemment, tu vois, une mine d'or pour les fans, tu vois, pour savoir dans quel matériau est fait la gâchette de tel fuselé alien, pourquoi c'est fait comme ça, tu vois. Non, mais ça montre à quel point le travail sur le lore, en fait, hein, de cet univers étendu d'Halo est poussé derrière, et ça montre qu'ils avaient envie, effectivement, de raconter un truc à travers ce genre. Et donc, le fait qu'il y ait ce genre de détails-là, bah, c'est ce qui donne, en fait, aussi, bah, tu vois, de... Ça permet
l'élan
tout simplement.
Ouais,
voilà, c'est ça, ça donne de l'élan, effectivement. Voilà. Merci pour
donc
l'aide.
Donc, il va avoir des bouquins, il va y avoir aussi des animés. Tu nous parlais, donc c'est.
Alors,
Halo,
ça, c'est beaucoup plus tard. Ouais. C'est à l'époque où 343 D'accord, Industries okay, va récupérer, mais il y a effectivement les films d'animation Halo Legends qui reprennent un peu ce qu'avait fait Animatrix à l'époque, avec plein de petits studios différents qui racontent des moments de l'histoire de Halo. Et il y a un truc qui est très important et qui je trouve, est assez. Enfin, tu vois, je ne connaissais pas cette histoire-là, mais en fait, Halo, dès le 1 et a fortiori après dans le 2, il filait un peu les contrôles aux gens sur la création des niveaux. Avec, aujourd'hui, je crois que ça s'appelle le mode Forge. À l'époque, je crois que ça avait un autre nom, je l'ai oublié. Mais en fait, on pouvait créer ces niveaux, créer ces situations, et ça a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le maquinima, c'est-à-dire le fait de créer du contenu avec des outils de jeux vidéo pour en faire de la fiction complètement différente. Et ça a donné notamment naissance à une série qui est ultra connue, qui s'appelle Red versus Blue, où c'était les rouges versus les bleus, c'était les deux couleurs des teams de Halo en multi. Et en fait, ce qui était devenu au départ une espèce de petite fanfiction, raconter des trucs, aujourd'hui, enfin tu vois, c'est un truc ultra emblématique, Red versus Blue de série.
Et ça, c'était quelle année à peu près? C'est sur la Xbox, la première Xbox?
Ouais, alors, ou... ça, alors il me semble que tout ce qui est Red versus Blue, c'est à l'époque de Halo 2, parce qu'encore une fois, comme j'ai lu toute la partie contexte, il y a des trucs où je suis un peu confus sur à quelle époque c'était. Mais en tout cas, voilà, ce que je sais, c'est que Halo, très tôt, ils ont donné les clés du jeu aux gens pour que créez vos niveaux, partagez-les, faites mumuse avec ça, et ce qui était ultra novateur pour un jeu console.
Ouais, c'est ça, ouais, parce que historiquement, c'est très PC, hein, tout ça, de donner les clés, de faire ses propres campagnes ou ses propres maps et tout. Et ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on a retrouvé avec Source, beaucoup, avec TF2. Enfin, t'as eu plein de fan-films, de courts-métrages de fans avec les persos de TF2, des environnements Valve.
Tu vois, on avait parlé de The Stanley Parable, par exemple, qui était un jeu fait au départ avec le moteur Source. Enfin, donc, de filer comme ça les clés de leur moteur et de pouvoir donner des trucs, moi, je trouvais que c'était quand même ultra... visionnaire en fait, tu vois, pour un jeu sur console.
Et c'est un des trucs qui a participé aussi à la popularité et à l'iconisation, l'intronisation même de ce, de Master Chief et de la licence et du phénomène tout simplement que c'est devenu. Alors peut-être plus quand même aux États-Unis qu'en Europe, ça, parce que on l'a dit, hein, la Xbox, c'est, c'était une console qui a surtout connu son succès aux États-Unis. La Xbox 360, ça a été aussi le cas. Pareil encore aujourd'hui, enfin, c'est vrai que je sais pas si les Américains sont un peu plus chauvins, ils veulent pas trop jouer aux trucs japonais. Comme ça.
En fait, c'est vrai qu'historiquement, tu vois, l'Europe et la France en particulier, on est très PlayStation, très jeux japonais. Ça a toujours été le cas. Les États-Unis, vraiment, avec la Xbox, t'as l'impression qu'ils ont trouvé, tu vois, leur compagnon. C'est leur truc. Alors, le fait que ça soit une boîte américaine, j'imagine que ça a joué. Tu vois, si demain, nous, on avait une console française, je pense qu'on dirait que c'est pas bien et on achèterait des PlayStation. Mais, tu vois, tu peux comprendre que leur console, elle sort, c'est Microsoft, c'est une grosse boîte. Bah, ils jouent au jeu de ce truc-là. Et en plus, ils ont un univers. Tu vois, qui fonctionne bien. Il a tout un délire dans le bouquin, j'en ai pas parlé. Il explique que Epion, il est parti dans un trip en racontant que comme le jeu est sorti plus ou moins au moment des attentats du 11 septembre 2001, en fait, on retrouve plein de liens dans l'histoire, tu vois, de Halo avec ces histoires-là de terrorisme, donc de ce qui s'est passé à l'époque avec Al-Qaïda. Je suis pas forcément toujours d'accord ou quoi que ce soit, mais c'est marrant de voir que, tu vois, dès l'époque, il y avait quand même ces réflexions sur la profondeur de l'histoire de l'univers de Halo. Peut-être que ça a résonné, tu vois, avec les Américains, plus que ça l'a fait avec les Européens.
Et pour un côté un peu plus commercial, les licences Madden et compagnie, c'est que sur Xbox ou c'est aussi quand même sur PlayStation? Ça, je sais plus trop.
Alors là, tu me mets une grosse colle.
Alors voilà, je vais vous le dire,
je n'ai jamais joué à un jeu Madden. Je connais les règles du football américain.
T'es déjà bien au-dessus de moi.
Non, mais bon. Parce que voilà, quand même, un jour je m'y suis intéressé, mais vraiment, j'ai pas joué à ces jeux-là, les jeux de sport, c'est pas vraiment
parce que c'est aussi des licences qui historiquement cartonnent beaucoup plus aux États-Unis que
Tout comme FIFA, tu vois, en Europe c'est intouchable.
Aux États-Unis, il y a pas trop de monde qui joue à FIFA, même si c'est de plus en plus. Mais
ça a l'air de sortir aussi sur.
Mais il le dit dans le bouquin, et puis il le dit qu'en gros, vraiment, Halo, c'est une série qui, quand tu es aux États-Unis et quand tu es en Europe, tu vois vraiment la différence. C'est vraiment, tu sens qu'il y a un poids là-bas de ce truc-là que nous, en fait, on comprend pas forcément, quoi.
Et du coup, une série qui sera vraiment un pilier pour Microsoft et pour la marque Xbox sur son territoire, mais aussi dans le reste du monde. Et forcément, ça va continuer avec les livres, avec les comics, les machins, tout ce que
t'as
vous
voulez. T'as des crossovers, tu vois, c'est rigolo. Je viens de me souvenir, sur 360, dans Dead or Alive 3, je crois, tu pouvais jouer le Master Chief. Enfin, tu vois, dans Soul Calibur, on peut jouer Geralt maintenant, et tu vois, à l'époque, on pouvait jouer le Master Chief dans Dead or Alive.
Parce que c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, Master Chief, c'est vrai que c'est une vraie icône, tu vois. Tu le disais, il y avait besoin de mascotte à l'époque de la Xbox.
Oui, on en avait parlé dans la préparation.
Ouais. Ils ont trouvé leur mascotte, leur exclusivité, mais qui arrive à se retrouver dans un seul personnage que tu vas pouvoir caler dans différentes promotions, dans différentes créations de fans ou officiels. Ouais.
Et du coup, Halo 2 qui sort, qui lui, on l'a dit un petit peu, va vraiment imposer le côté multi et compagnie, et va vraiment, c'est Halo 2, je crois que c'est l'épisode peut-être le plus apprécié de la série, globalement, si on se met comme ça. Et ensuite, il y a le 3 qui va ouvrir, alors il devait ouvrir sur la 360, mais ça n'aura pas été le cas, elle est sortie assez tôt, il sortira un peu plus tard Halo 3, mais ce sera le pic, même commercialement, de la série, puisque ça atteindra plus de 12 millions de ventes, je crois même 15 millions.
13,
17, 18 millions,
qui en veut plus?
Moi, je me souviens, après, c'est souvenir que personnel hein, de ma bulle, mais je me souviens d'une hype incroyable pour Halo 3, alors que j'ai jamais eu de Xbox, je connaissais pas particulièrement de gens qui étaient fans de Halo ou quoi, mais Halo 3, j'ai l'impression j'entendais que ça.
À l'époque, donc, non, moi, c'était bien avant que j'arrive chez Micromania, mais en tout cas, moi, je venais d'avoir la 360, tu vois, et le truc qu'il fallait faire, c'était d'attendre Halo, tu vois, tous les gens que je connaissais qui jouaient Gears avec moi, ils disaient il faut attendre Halo 3, parce que Gears of War était déjà sorti, et j'ai acheté Crackdown pour avoir la démo de Halo 3. Puisque un des arguments de vente de Crackdown, c'était le premier jeu avec des succès. Alors ça déjà, voilà, c'est pour votre petite culture personnelle. Mais surtout, c'était le jeu, quand tu l'achetais, t'avais accès à la démo de Halo 3. Et c'est comme ça que j'ai pu y jouer un petit peu. Et que je me suis rendu compte que je n'aimais pas les FPS. Mais parce que j'y arrivais pas. Tu vois, Gears of War, j'aimais bien parce qu'il y avait ce côté visée très lente. Et puis surtout, on pouvait tronçonner les ennemis. Donc ça, c'était fun.
La base.
Mais Halo 3, voilà, j'ai pas accroché à l'époque. Et je suis content de l'avoir rejoué aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment le truc que tout le monde attendait. Et effectivement, bah, quand Halo 3 est sorti sur la 360, surtout qu'à l'époque ben, la PlayStation 3 est à peine sortie, mais on le sait, les premières années de la PS3 ça a été assez difficile.
Ouais. Ça a été
la console trop chère, pas beaucoup de jeux, il a fallu attendre Uncharted pour lancer la Twitch.
À ce moment-là, on pouvait se dire que Microsoft allait Microsoft allait vraiment s'imposer comme le consolier numéro 1. Bon, l'histoire aura décidé un petit peu autrement, ça a beaucoup changé depuis. Mais c'est vrai que dans les coulisses, ça se passait de moins en moins bien, on va dire, pour Bungie, notamment avec leur relation avec Microsoft. Et puis, bah, il commençait peut-être un petit peu à en avoir marre de Halo. Et il va y avoir un truc qui va se signer. En gros, ils s'engagent à faire encore deux Halo auprès de Microsoft. Et après, ils se disent, ciao les gars, on se barre.
Ce qu'il faut souligner, c'est que Halo 2, c'est peut-être le développement, ils en parlent encore comme étant le pire crunch de leur vie. C'est-à-dire que Halo 2, manifestement, ça a été une horreur à sortir en termes de développement. Il n'y avait rien qui était prêt quelques mois à l'avance. Donc, ils ont vraiment souffert physiquement de ça. Il y a eu énormément de gens qui ont quitté l'industrie à cause de Halo 2 qui a travaillé là-bas. Il me semble qu'un des fondateurs est parti peu de temps après. Enfin, vraiment, ça a été une hécatombe, ce développement-là. Et donc, quand derrière Microsoft, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la vache à lait en disant bah, « Halo 2, c'était bien ». On est parti pour Halo 3.
4, Halo 5,
et, voilà. Et donc, tu te dis, toi, tu vois, t'en peux plus, et on te dit, bah, vous allez faire du Halo jusqu'à votre retraite, c'est-à-dire dans 6 mois. Et là, les gens, évidemment, ils se disent, non, c'est pas possible, quoi. Donc, je pense qu'il y a eu effectivement une espèce de ras-le-bol, puis surtout une envie, tout simplement, de ne pas faire que ça toute leur vie. Ouais. Ils voulaient pas être le studio d'un jeu. Et bah, malheureusement, la force des choses leur a un peu imposé ça. Et comme tu l'as dit, ils ont commencé à vouloir discuter avec Microsoft de se séparer définitivement, de ne plus être un studio Microsoft. Et la condition pour le faire, c'était donc de faire deux nouveaux jeux qui étaient donc Halo Reach et Halo ODST.
Tout à fait, c'est ça. Donc il y a encore deux autres jeux Halo qui sont sortis, qui ont été développés par Bungie avant qu'il y ait vraiment bah, ce divorce avec Microsoft, champagne, indépendance, on va pouvoir faire un jeu totalement différent. Et puis au final,
ça sera voilà, Destiny.
Ce sera Destiny, qui est quand même un jeu qui ressemble beaucoup à Halo. On peut revenir aussi très brièvement, puisqu'on est sur Bungie, sur le destin de Destiny. Oh là là, qu'est-ce incroyable. Non, parce que bon.
C'est vrai que Halo, Destiny, c'est quand même les trucs avec les jeux de mots les plus péraves que tu peux faire dans l'histoire du jeu vidéo. Hein.
Destiny qui va aussi connaître un développement très compliqué, parce que bon, même s'il n'y a plus la houlette de Microsoft bah, au-dessus, ça a été compliqué pour mener à bien le projet, c'est ça notamment que raconte, je crois, Jason Schreier dans ce bouquin, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils finiront par se retourner vers Activision pour pouvoir lancer le jeu.
Après, pour ils avaient quand même toute cette ambition de faire un MMO, alors ils savaient pas encore si ça allait être plutôt science-fiction, plutôt fantasy, et ça aussi c'est intéressant, comme tu disais, il y a une partie des gens chez Bungie qui en aura le cul de faire du Halo, de faire du FPS science-fiction, ils considèrent avoir fait le tour, sauf que, bah, entre-temps, entre Halo 1 et le cinquième qu'ils ont pu sortir, je sais plus si c'est Reach ou l'autre, mais bref, bah en fait il y a plein de nouveaux qui sont arrivés hein, pour chaque année, pour chaque nouveau Halo il y a des nouveaux, et du coup il y a vraiment dans le studio il y a deux profils en fait, il y a ceux qui en ont marre des Halo qui sont là depuis longtemps, et il y a ceux qui sont là depuis pas longtemps et qui ont rejoint parce que c'est des fans de Halo en fait.
T'as une nouvelle génération de devs qui arrivent et qui eux ils veulent bosser sur Halo quoi.
Ils sont venus là pour ça à la base, ils sont dans le studio parce qu'ils sont fans de ça, ou peut-être ils adorent faire des FPS ou quoi, et du coup il y a eu cette scission interne en fait entre des gens qui fatalement reproduisent du FPS science-fiction parce que c'est ce qu'ils aiment,
c'est pour ça qu'ils sont chez Bungie,
c'est ça. Et d'autres qui voulaient plutôt voilà, vraiment faire les MMO fantasy et tout, et bah, y en a plein qui sont partis parce que bah, le studio était plus il a changé quoi.
Ouais, donc ça a été difficile le projet à mener. Au final c'est quand même, alors il y aura la partie MMO, mais ce sera quand même du FPS en science-fiction hein. Vraiment les univers sont quand même assez proches,
et puis tu retrouves en plus
excusez-moi,
même tu prends en main quelques quelques minutes, les véhicules, les sauts, l'inertie, les sensations au niveau des armes. Bon, tu sens que c'est Bungie derrière, il n'y a pas de problème, on reconnaît la patte. Et en plus, là-dessus, ils sont dû à nouveau galérer, puisque ils ont finalement. S'ils se sont... Alors, ils n'ont pas été rachetés par Activision, mais ils étaient édités par eux, ils ont dû racheter l'IP pour avoir le droit de l'exploiter eux-mêmes, ce qui est quand même, qui montre quand même une bonne santé financière du studio, parce que être capable de racheter comme ça sa liberté, c'est pas donné à tout le monde là-dessus. Et a priori aujourd'hui, de tout ce qu'on peut en lire ou en entendre, c'est ça leur est bénéfique puisque le jeu prend quand même une certaine ampleur. Destiny 2, c'est quand même un gros,
c'est bien imposé. Le premier, ça a pas été le succès escompté. Il est arrivé en retard, surtout. Il est sorti en 2014, alors que ça devait être beaucoup plus au début des années 2010. Et après, c'est avec le 2, les extensions, vraiment que le jeu s'est imposé avec évidemment son modèle free-to-play aujourd'hui. Hein, c'est le cas.
En fait, c'est gratuit et tu peux acheter des extensions. Pour aller plus loin.
Ça, c'est ce qu'on aime, bien sûr. C'est les jeux qui nous plaisent. On aime ce modèle-là. Et donc, voilà, ils ont vraiment réussi à s'imposer. Et puis, on va revenir un petit peu à Halo parce que Microsoft a dû trouver une solution pour continuer à traire cette bonne vache à lait en armure verte. Ils ont fondé un studio donc, qui s'appelle, comme tu l'avais dit, 343 Industries. Et leur premier jeu, ce sera Halo 4. Et puis, depuis, c'est eux qui ont la main sur la licence. Alors, dans l'histoire, maintenant, ça fait 20 ans que Halo ça existe, ça a plus longtemps été chez 343 Industries, puisque c'est 2007 que le divorce commence à se faire, à s'entamer avec Bungie.
Ça c'est Halo 3 en 2007, mais il y a encore les
343, ils ont quand même bossé un peu avec Bungie, je crois, sur Reach, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'ils ont un peu collaboré dessus, il y a des trucs sur lesquels ils étaient ensemble ou pas ensemble. Enfin, en gros, la passation de pouvoir, c'est pas fait du jour au lendemain, c'était pas genre voici le bébé, bonne journée. Ça s'est quand même fait sur la
Cortana,
durée.
Voici
c'est ça, voilà John, on vous les donne, changez-lui, ne lui donnez pas à manger après minuit. Tu vois ce genre de truc, mais donc ça s'est forcément fait sur la durée, et c'est effectivement à partir de Halo 4. Donc Halo 4, c'est
2012,
c'est encore la 360, on est d'accord, c'est la toute fin.
Xbox One,
ça a été Halo 5.
Et effectivement, donc il y a eu encore pour l'instant que deux épisodes en plus canoniques qui sont sortis de Halo. Il y a donc eu le 4 et Halo 5 Guardians qui est sorti lui en 2015, et puis il y aura Infinite qui va arriver peut-être en 2021. Mais il y a aussi plein de spin-off, il y a eu d'autres trucs qui ont été développés. Donc on avait parlé, il y avait les studios, enfin les Halo Wars qui sont des RTS développés par Ansem.
Le premier
en tout cas. Alors le deuxième on n'a pas vérifié, tant pis.
C'est un autre, parce qu'en fait on parlera peut-être un petit peu de ça, mais Ansem Studio, donc ils ont fait Halo Wars, donc je crois que c'est 2007 effectivement le premier. Ensuite Microsoft a terminé le contrat, pareil, c'est aussi un studio qui n'a pas négocié son indépendance, mais qui a été fermé par Microsoft. Il y a une partie qui a pu rejoindre des équipes de Microsoft ou quoi, mais bref. Et le deuxième, parce que c'est bien des années plus tard qu'en fait je pense qu'il y a eu un petit regain d'intérêt pour le RTS, qui est un genre qui était un peu mort, qui l'est toujours un petit peu d'ailleurs. Mais Halo Wars 2, c'est bien des années après. C'est pas genre.
C'est assez récent. Halo Wars 2, j'en entends. Tu vois, pour moi, c'est la période où j'étais chez Gamekult, donc c'est pas si vieux que ça.
J'ai pas vérifié la date là-dessus. Et puis il y a un autre spin-off qui s'appelait les Spartan Strike, Spartan Assault.
C'est du twin stick, vu de dessus, plus classique.
Exactement. Donc voilà, quand même des spin-offs.
Sachant que Halo ODST, c'était aussi un spin-off, puisqu'on jouait pas le Master Chief, on jouait un ODST.
C'est un vrai épisode canonique, effectivement. Donc voilà la série qui va vraiment s'étendre là-dessus. Et du coup, nous, on se posait un peu la question, on se demandait, où on en est à Halo aujourd'hui, 20 ans plus tard. C'est vrai qu'à l'époque, quand le jeu sort, c'est vraiment un phénomène et il va vraiment s'imposer dans les années 2010 comme une icône. Mais dans les années... Non, des années 2000, pardon, comme une icône. Et mais dans les années 2010, justement, cette icône va s'éroder un petit peu.
Pas forcément d'un point de vue commercial. Exactement. Parce que ça, on l'a vérifié. Donc Halo 5, c'est un jeu qui s'est très bien vendu. Halo 4, a priori, pas trop mal également. Et encore aujourd'hui, tu vois, Halo, ça reste un gros truc. C'était toujours au cœur de la stratégie de Microsoft, puisque Halo Infinite était censé être le jeu de lancement de la Xbox Series X ou S. Finalement, ça s'est pas fait. Mais justement, je pense que quand on a commencé à discuter de Halo et de préparer, ce qui s'est passé avec Halo Infinite, c'est vraiment important, je trouve, tu vois, pour comprendre un peu la série Halo. Et c'est pas pour rien, on en parlait entre nous sur la préparation. Pourquoi on a choisi de parler du tout premier Halo? C'est parce que quand on y a joué, qu'on a vu les images d'Infinite ou qu'on a vu des images d'un autre jeu, c'est une série qui a pas tant évolué que ça dans sa proposition. Et tu regardes la démo de gameplay là, de 10 minutes de Halo Infinite, c'est plus joli, évidemment, ouais, que Halo 1. Mais par contre, ben, au bout de 5 minutes, il est dans un Warthog, et après, il tire sur des Grunts, et après, il tire sur un Elite. Et la vraie nouveauté qu'on y voit, c'est un grappin et un petit bouclier qu'on peut déployer au sol. Et c'est tout.
Il y a une carte.
Ah oui, on voit une carte aussi. Non, mais bon,
Noir,
voilà.
Mais, c'est très design actuel.
Mais on sent que c'est une série, en tout cas, qui a pas forcément... qui a pas encore eu l'occasion de se réinventer. Alors, c'est pas forcément un reproche quand on le lit. C'est-à-dire que c'est plus un constat. C'est-à-dire qu'on le voit avec Halo Infinite, ben, c'est toujours la même chose qu'ils nous proposent. A priori, de toute façon, les fans de Halo, ce qu'ils veulent, c'est Halo. Donc, bah, a priori, on leur propose. J'ai pas exactement compris pourquoi les gens râlaient, si c'était parce que c'était pas suffisamment joli, parce que l'alien de la cinématique, il était vraiment moche ou pas. Est-ce que c'est parce que ça, c'était pas assez. Enfin, je sais pas. Tu vois, je me dis, ben, c'est du Halo, pourquoi vous êtes pas content? Peut-être que justement, il y a une espèce, tu vois, de demande pour de la nouveauté, mais en même temps, quand tu lis certains messages ou de fans, tu vois, dans les Discord, il y en a plein qui disent oui, mais depuis Halo 2, on n'a pas fait mieux, il y avait Halo 3, le multi, etc. Donc tu sens qu'il doit y avoir des espèces de tensions, tu sais, de tiraillements.
Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est une licence qui est toujours importante, qui fait toujours vendre et qui est toujours importante dans l'imagerie, dans l'image que veut convoquer Xbox, mais c'est aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est quand même la gloire est plutôt derrière eux. On est plutôt sur les trois, la première trilogie, on va dire, qui a été imposée par Bungie. Et est-ce qu'on se demande un petit peu si 343 Industries n'est pas justement un peu dans ce piège d'être coincé, tu sais, dans bah, on doit continuer à faire du Halo parce que c'est la vache à lait, il faut pas trop qu'on touche à ce truc, parce qu'en plus, c'est pas nous qui l'avons inventé, entre guillemets. Mais en même temps, bah, c'est vrai que ouais, quand on regarde les images, on se dit, bon, qu'est-ce que Halo a apporté? En fait, c'est ça, moi, que je voyais comme parallèle, c'est qu'en jouant au premier, je me dis, putain, ouais, en 2000, pardon pour le gros mot, mais vraiment, waouh, en 2001, ouais, c'est la version, c'est l'autre version, c'est la version sympa de putain.
C'est
wow,
devant les enfants.
Ouais,
wow.
C'est ça. Waouh, incroyable. Purée. Le jeu, je trouve qu'il est tellement innovant, il est tellement détonnant par rapport à ce qui se faisait. Et je dis, je comprends pourquoi ce truc-là, c'est devenu un phénomène, parce que bah, y a tous les éléments qui sont réunis pour en faire un truc incroyable. Et là, par contre, quand je vois Halo Infinite, je me dis, bah, pourquoi
c'est la même chose en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, est-ce que la série, elle apporte encore quelque chose à une époque où bah, ça fait maintenant 10 ans qu'on a du Call of Duty tous les ans, qu'on a du FPS, on ne sait plus quoi en faire, avec des Doom, tu vois, on a eu du Rage, on a Destiny, on a vraiment une explosion au niveau des modèles et des propositions de ce jeu-là à la première personne. Halo garde cette forme-là. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Bah, je me dis que le délai là, qu'on a vu de Infinite, ça nous donne quand même une espèce de signe qu'il y a peut-être quand même une espèce de remise en question à faire à un moment donné. Alors je sais pas du tout, est-ce que les gens de chez 343, est-ce qu'ils se sentent bloqués? Est-ce qu'ils ont peur, tu vois, de prendre vraiment le truc? Est-ce que Microsoft les empêche en se disant, bah oui, mais les gens, ils veulent du Halo, regardez, ça se vend toujours bien, on a le Game Pass, sortez-nous un Halo 6, et puis faites pas chier. Pardon, sacre bleu. Waouh. Et donc, voilà, moi, je sais pas exactement ce qui se passe dans les coulisses, mais le fait est que tu te dis, là, le fait qu'ils aient quand même retardé le jeu en disant, on va le refaire plus ou moins, on va y retoucher, on va revenir un petit peu dessus, c'est pas anodin. Et ça montre encore une fois que c'est des jeux qui se font toujours dans la douleur, quoi. Parce que vraiment, tu te dis, putain, Infinite, ça fait des années qu'ils sont en train de bosser dessus, puisque le premier teaser, il me semble, il date d'il y a 3 ou 4 ans déjà.
Bah, le dernier, enfin, c'est 2015, le 5, donc oui, ouais, voilà.
Il me semble qu'on avait eu un teaser en 2016 ou 2017 de Halo Infinite, où on avait vu, tu sais, la séquence où il est dans le vaisseau, là, le type barbu là, qu'on a vu du coup dans l'autre vidéo, on le voyait déjà à l'époque, et depuis on n'avait pas de news, ils ont bossé dessus, et là ils le montrent au grand public, et là le grand public fait waouh. Pas waouh, c'est quoi l'inverse de waouh? Fichtre, voilà.
Mais pour mesurer l'ampleur du Bad Buzz, c'est quand même un jeu qui devait être au line-up la sortie, ça devait être un des jeux, une des seules, enfin la seule exclue, je pense d'ailleurs, pour la Xbox Series X et S. Ils ont décalé ça, enfin c'est quand même pas rien, c'était un argument
de vente.
Il y a
déjà un côté technique aussi, c'est que bah, le jeu, je pense, n'avait pas la tronche escomptée.
Ah oui, oui, c'est
vraiment
très esthétique, le Bad
esthétiquement Buzz. Mais après, c'est sûr qu'en plus, si tu couples ça, bah, moi j'ai joué là au remaster, et tu te dis, ouais, on est vraiment pas loin du tout, donc il y a une proximité en fait avec les remasters, enfin les jeux qui ont des jeux qui ont 5 ans, des jeux qui ont 10 ans, tu te dis, ah oui.
Bah, c'est un jeu, je pense, qu'il assume quand même de taper de puiser dans le Halo 1, de chercher sur un effet de nostalgie, peut-être même de réattirer des gens qui jouaient pas trop Halo, ça, je sais pas quelles sont les intentions créatives derrière, mais en tout cas, moi j'ai une vision plutôt cynique, pragmatique, économique de la licence à l'aujourd'hui. On en a déjà discuté entre nous, mais pour moi, le mot d'ordre pour Microsoft, c'est tant que ça se vend, on touche à rien. C'est la licence à l'eau, c'est ce qui prédomine en fait vraiment le truc. C'est que, bah, et peut-être qu'ils sont dans le meilleur des mondes, parce que 343 Industries, c'est peut-être juste des fans, entre guillemets, hein. C'est péjoratif ce que je vais dire, mais je le pense pas, mais c'est un peu des fanboys de Halo, c'est peut-être des gens qui surkiffent Halo, qui adorent l'univers et tout. Ils font du Halo, ça se trouve, ils adorent ça. Microsoft, ils n'en veulent pas plus, ils veulent juste du Halo, on continue à faire du Halo. Et il y a peut-être aussi, parce que nous on est dans les cercles d'initiés, peut-être que la majorité silencieuse des joueurs d'Halo, parce que moi j'en connais pas particulièrement, mais on voit que ça se vend quand même beaucoup, ils veulent peut-être juste du Halo. Je sais pas.
Ouais,
pas
c'est pour ça que je disais, j'ai pas forcément compris, tu vois, le côté bad buzz, parce que je me dis, mais si c'est ça qu'ils voulaient faire avec Halo et que les gens qui jouent à Halo, ils attendent ça, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, de savoir si c'est très beau ou pas. Alors, est-ce que c'est parce que ça rentre un peu en conflit avec la communication globale de la Xbox Series, qui est la console la plus puissante de l'univers, tu vois. C'est vrai que là, tu te dis, bon, ça cassait un peu, parce que le jeu, bon, bah, visuellement, c'est vrai que c'était pas une claque technique. Est-ce que c'est grave? Personnellement, moi, je m'en bats les reins, mais le fait est que Microsoft, ils ont l'air de dire qu'il faut peut-être retoucher au truc, donc on verra en fait ce que va donner Halo Infinite. Je pense que ça va être une bonne indication pour moi. Ils sont vraiment une espèce de la croisée des chemins, parce que ben, soit ils continuent et ils font du Halo, et comme tu le dis, tant que ça se vend, ben, un jour ou l'autre ça risque de s'arrêter, parce que ben, il va y avoir d'autres propositions, il va y avoir d'autres FPS,
ou c'est là qu'ils renouvelleront,
ou alors c'est à ce moment-là qu'ils vont le renouveler, ou est-ce qu'ils vont anticiper le truc et faire, tu vois, par exemple, nous, l'exemple qu'on donnait nous entre nous sur la prépa, c'était un jeu comme God of War, qui après avoir fait God of War 3 s'est dit bon, ben, on arrivait un peu au bout du truc, on a eu Judgment, mais enfin, God of War,
oui,
je sais pas comment il s'appelait.
Bon, oui,
voilà, anecdotique.
Il souffrait vraiment,
et
justement,
pendant ce temps, justement, il se remettait en question. On va essayer d'amener une nouvelle proposition. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire avec Halo? J'en ai aucune idée, mais parce que je suis pas fan du truc, donc j'en sais rien. Mais je trouve que ça colle le... En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que ça fait partie de ces rares séries, tu vois. C'est il y a les Halo, il y a les Final Fantasy, il y a les Yakuza, il y a les Dragon Quest, tu vois, il y a les Heroes of Might and Magic. Tu sens où les tu vois, il y a des jeux, il y a une espèce de communauté de fans. T'as l'impression qu'ils ont une espèce de pouvoir, de pression sur les studios, et que t'as peur de te les mettre à dos en fait en changeant trop la formule. T'as une sorte de conservatisme sur le... Je sais pas.
Ouais, après, c'est vrai que bah, moi, si je me donne vraiment mon point de vue, je trouve ça un petit peu triste, même pour des créatifs, tu vois, parce que j'ai quand même du mal à croire que des gens qui bossent depuis 12 ans sur la même série, ils disent ouais, non, on veut juste faire du Halo. Enfin, j'ai du mal à croire que vraiment il y a cette vision-là. Et puis surtout, quand je le compare, tu vois, par exemple, à d'autres icônes du jeu vidéo, je prends Mario parce que c'est la plus grosse, mais tu vois, Nintendo, ils ont toujours cherché quand même à essayer de se réinventer. Ouais. Tu vois, on l'a fait, c'est un peu ce qu'on essayait de raconter avec notre épisode sur les Mario 3D, que chaque épisode, il y avait une tentative quand même de faire quelque chose de différent, de sortir d'un autre
et
schéma.
Tu peux multiplier les exemples, parce que
oui,
du coup, c'est vrai que bah, tu vois, Tomb Raider, c'est à peu près la même époque, mais c'est pareil, c'est une série qui a connu quand même des évolutions. Enfin, tu prends pas mal d'icônes, il y a eu des remakes, tu vois, de trucs, mais tu vois, tout ce qui est Crash Bandicoot et tout, qui date de l'époque PS1, bon, c'est juste des remakes, parce que bah, c'est des jeux qui ont été en jachère pendant 20 ans.
Oui, mais les gens aussi qui créaient ces jeux, bah, ils ont évolué et ils ont fait d'autres choses, tu vois. Mm-hmm. Et c'est vrai que bah, là, Halo, moi, c'est la question que je posais, je me souviens quand c'était sorti le 13, je me disais, mais qu'est-ce qu'on attend encore d'Halo aujourd'hui, tu vois, et peut-être que c'est... Bah voilà, je me demande ce que cette série elle a raconté aujourd'hui du jeu vidéo.
Bah, moi, le parallèle que je fais, c'est Assassin's Creed, tu vois. Si on réfléchit vraiment en termes de licence et de politique, de tant que ça se vend, on touche à rien. Bah, Assassin's Creed, c'était grosso modo la même recette jusqu'à Unity Syndicate, où là ça a commencé à être un peu le bad buzz et ça a vraiment, les ventes ont commencé à vraiment baisser. Et là, ils se sont dit, bon, ok, on peut plus continuer sur cette formule, on va se réinventer. Ils ont fait Origins, et là, de Origins à Odyssey et
la machine
est
repartie.
Je pense ils sont repartis sur du tant que ça se vend, on touche à quasiment rien. C'est la même formule, grosso modo.
Sachant que là, bon, pour Ubisoft, Valhalla, c'est l'épisode qui s'est plus vendu. Cartonne. Donc, ils sont repartis pour une espèce de haut de la vague. Et peut-être d'ici 3 ou 4 épisodes, les gens en auront à nouveau marre.
Tu vois, j'ai le même avis sur Assassin's Creed. Moi, je n'y joue plus. Enfin, ça m'intéresse plus.
La différence, c'est que Assassin's Creed, t'as un épisode tous les 1 an et demi, 2 ans. Là, Halo, ça faisait quand même pas mal d'années. Et je pense que ça doit être quand même, comme tu le dis, difficile pour les personnes du studio. Parce que leur dernier jeu, c'était il y a 5 ans. 5-6 ans maintenant, donc c'est compliqué de passer autant de temps sur un seul jeu et de te rendre compte que les idées que tu avais il y a 5-6 ans en te disant c'est ça qui va marcher quand on va sortir, entre temps il y a eu une nouvelle génération de consoles, il y a eu des tas d'autres jeux qui ont peut-être pris le pas, tu vois, sur ce que tu vas essayer de faire, et ce qui fait que toi tu vas arriver avec une proposition qui est finalement sans plus, tu vois. Alors peut-être que voilà, il faut peut-être que le jeu il se crache ou qu'il y ait une espèce de vraiment creux de la vague définitif pour que le studio se remette en question, j'en sais rien.
Mais enfin, juste, je veux dire, encore une fois, hein, c'est des gens qui ne jouent pas au Halo.
Là, oui, c'est ça, pas, oui, on dit ça. Oui,
tout à fait, tu as raison de le préciser, c'est vraiment nous, notre
c'est de la pure opinion de discussion de comptoir.
On pas
là,
des... Mais après, en même temps, tu vois, on prend cette série comme on la prend, comme d'autres jeux qu'on prend dans l'émission, on se dit, bah, on essaie de comprendre un peu où elle en est, cette série. C'est, aujourd'hui, c'est difficile de dire que Halo, c'est un des monuments, un truc important, tu vois.
Ça l'a été, tu vois, ça c'est clairement été.
Et en y jouant, je pense que je l'ai bien plus réalisé pourquoi le premier est si important. Mais par contre, aujourd'hui, c'est clair que ça n'a plus la même pouvoir d'attraction, et pour Xbox, c'est, je trouve que c'est toujours difficile. Maintenant, il faut aussi dire que bah, Xbox aujourd'hui, c'est le Game Pass, c'est une autre stratégie, donc
ouais,
déjà les chiffres de vente,
studios,
on n'en aura plus sur Halo Infinite, non. Ça fait partie d'une offre qui se construit un peu différemment, donc voilà, c'est une série peut-être qui va finalement, qui a peut-être une bonne place sur un Game Pass, plutôt que chez Sony, où là, il faut des grosses cartouches pour vendre les consoles avec des exclus, c'est pas la même
stratégie. Ils vont se retrouver au milieu d'autres studios, parce que du coup, bah, avec le rachat de ZeniMax, Bethesda, id Software, etc., va y avoir Doom en face.
Ouais,
tu vois, et Doom aujourd'hui en termes de FPS c'est vraiment très fort. Ils arrivent à proposer justement ce côté fast FPS bourrin, etc., qu'on avait un peu, comme on l'a dit, hein, ressenti dans le premier Halo. Il y avait déjà ces idées de game design qu'on avait dans le Halo dans le Doom de 2016, et tu vois, ça va créer des espèces d'associations de jeux et de studios. Est-ce que ça va être bénéfique? J'en sais rien. Là, on est vraiment à une phase où Microsoft est dans une transition. Ils ont changé leur politique depuis l'annonce ratée de la Xbox One. Ils ont vraiment mis du temps à... Il y a une inertie énorme, hein, vu la taille de la boîte, c'est normal. Il va falloir encore quelques années pour qu'on voit vraiment ce que ça donne, tout leur move là.
C'est une porte de sortie potentielle, peut-être pour des devs de chez 343. Comme ça, s'ils en ont marre d'Halo, ils peuvent peut-être, hop, le transfert il est plus facile pour bosser chez id Software ou sur d'autres licences ou quoi. En tout cas, tu vois que c'est normal d'être lassé de la formule, que des joueurs puissent être lassés de la formule, puisque même les devs eux-mêmes chez Bungie, ils en avaient marre. Il y en a qui considéraient avoir fait le tour à partir de Halo 3, ils disaient, bah c'est bon, en fait, la formule, créativement, on considère avoir fait le tour.
Là, ouais.
Mais ils ont dû, bah, la façon d'innover, c'était juste de se casser et de faire autre chose. Donc bon, là, 343, ils iront peut-être ailleurs.
Voilà.
C'est vrai qu'on a eu cette discussion. On s'est dit pourquoi le 1? Bah parce que il nous semblait que tous les éléments, alors même si j'imagine que les fans nous rejoindront sur Discord pour dire que oh, attention, il y a des choses qui ont évolué, malgré tout les bases, les fondements de la série, ils sont quand même là. Je considère avoir bien mieux compris en l'ayant joué, en me disant ok, j'ai compris pourquoi ça en 2001 c'était important, et ça c'était cool. Et je pense que c'est ça aussi qu'on voulait expliquer, avec à la fois cette recette, ce game design qui était que je trouve vraiment élégant, tout simplement.
Ouais, vraiment,
à l'époque,
ouais.
Tu vois, quelque chose qui est bien fait, qui est pensé pour son support, qui marche bien, qui est bien mené, malgré forcément c'est
et
pas
un truc qui me touche beaucoup, c'est que le jeu ne t'explique pas tout ça, mais tu le comprends vraiment. La logique des balles, la logique des tu vois, des trucs énergétiques, des boucliers, etc., tu le comprends en y jouant. Tu t'amuses un peu avec les armes, tu comprends un peu comment
tu
elles fonctionnent.
L'équilibrage, tu fais ah oui, je vais utiliser
le jeu,
ça
il veut que je fasse
mieux,
ça,
exactement,
et je trouve ça tellement agréable quand le jeu il arrive à faire ça. Et ça a été une très bonne surprise pour moi aussi de découvrir Halo sur le tard. Et là, bon, pour le coup, encore une fois, merci, fin du game. Une excellente émission que je vous recommande, parce que j'aurais probablement jamais joué
sans ça,
ça me serait jamais venu à l'esprit. Et au final, je me dis, putain, j'ai passé un bon moment, quoi. Donc, j'étais content de faire ce jeu-là. Et effectivement, comme tu l'as dit, je comprends tout à fait qu'il y a 20 ans quand c'est sorti, ça a dû mettre une grosse claquasse à tous les gens qui avaient la Xbox.
Et
quoi.
Une claquasse telle, en fait, que justement, c'est pour ça qu'on en a encore les échos aujourd'hui.
Ouais.
Enfin, ce jeu-là, il est bien à ce point-là que même 20 ans après, en continuant plus ou moins à faire la même chose, il
ça
arrive
marche.
Encore. Ça marche encore, donc
ouais, c'est fort.
Je pense que c'est là qu'on mesure à quel point cette formule elle était novatrice, et à quel point ils ont pu du coup la traire
et pertinente
tout.
En fait, quoi, c'est ça. Donc voilà, Halo, effectivement, belle réussite, et bravo Bungie, maintenant vous faites du Destiny, ça n'a rien à voir.
Totalement différent. Alors, on remercie une nouvelle fois Sœur d'édition, notre sponsor, le bouquin de Loïc. On vous le recommande évidemment si vous voulez aller plus loin dans l'univers. Il est sorti quand? Ça doit être 2017, 2018, un truc comme ça. Et du coup, bon, il n'y a pas le dernier épisode, il n'y a pas Infinite, mais voilà, ça va jusqu'au 5. Hein, au moins, il y a Guardians dedans. Enfin,
ouais, ça parle de pas mal de choses. En plus, alors,
dessus.
C'est vrai que ça, je ne l'ai pas cité. Il a fait tout un chapitre aussi sur que sont-ils devenus, parce que du coup, il y a tellement eu de gens qui ont quitté le navire en cours de route pour des raisons X ou Y qu'on ne sait pas forcément tout ce qu'ils font. Donc là, c'est pareil, il y a un truc où vraiment il a fait le suivi de pas mal de monde. Et il y a toute cette partie sur l'analyse de gameplay qui reprend beaucoup de choses qu'on a dites là dans l'épisode. Et il y a un gros morceau sur l'univers. Donc si vous voulez vous connaître un peu, sans vous caler les 30 bouquins comme le type de la vidéo YouTube, connaître malgré tout les grandes lignes de cet univers-là qui s'étend sur des milliers d'années, vous avez tout là-dedans. Quoi.
Est-ce
c'est
que Loïc
le
les
bon
a
truc.
Lus, les 30 bouquins?
Oh bah j'imagine.
On veut la réponse, on veut le savoir. Très bien, donc le bouquin, évidemment, c'est dispo sur les liens de Sœur, vous pouvez très facilement les retrouver. L'autre lien à regarder, c'est celui du Patreon, peut-être, pour débloquer la blacklist rapidement, pour voir, on va, pour nous aider à façonner cette liste des jeux qu'on aborde, on vous en a parlé en début d'épisode. Si vous voulez en savoir plus, tout sera sur le Discord au
tout
moment où
sortira, ouais.
Sortira l'épisode, pardon. Messieurs, merci beaucoup. Dans deux semaines, on se retrouve pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, on change un peu d'univers, aussi au moins iconique, ça par contre on peut le dire, même si là c'est vraiment une série qui a cherché à se réinventer, puisque c'était le projet même. Je n'antise pas plus, de toute façon vous savez de quoi il s'agit si vous êtes sur le Discord. On se retrouve donc dans deux semaines, merci de nous avoir écoutés, salut,
salut. Ciao.